Donc nous ouvrons donc la séance du conseil municipal du mercredi 18 septembre 2019. Il est 18h30. Nous disposons d'un certain nombre de pouvoirs qui nous ont été transmis. Madame Mahler a donné pouvoir à Monsieur Faure. Madame Trévilly a donné pouvoir à Madame Roux. Monsieur Pouillaude a donné pouvoir à Monsieur Rouillère. Madame Chapeau a donné pouvoir à Monsieur Petit. Madame Nathalie Reynard a donné pouvoir à Madame Massendès. Monsieur Rossetti a donné pouvoir à Monsieur Constant. Je demanderai à Madame Roux d'assurer la fonction de secrétaire de séance. Dans un premier temps, approbation du compte rendu de la séance du 8 juillet 2019 qui a été transmis par voie électronique et affiché le 10 juillet 2019. Y a-t-il des remarques particulières? Je vous remercie. Je le soumets donc à votre approbation. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Point numéro 1. Approbation de la charte du parc naturel régional du Mont Ventoux et de ses annexes. Je vous donne lecture. Approbation de la charte du parc naturel régional du Mont Ventoux et de ses annexes. Plan de parc du parc naturel régional du Mont Ventoux. Projet de statut du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Mont Ventoux. Emblème figuratif propre au parc. Logo du parc naturel régional du Mont Ventoux. Programme d'action et plan de financement prévisionnel portant sur les trois premières années du classement. Je vous rappelle que, reconnu comme un territoire au patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel, de niveau national voire international, le Mont Ventoux fait l'objet, depuis 2011, sous l'impulsion de la région, d'une démarche de labellisation en parc naturel régional. Une mission de préfiguration du parc dans le cadre du syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux, SMAEV, a été mise en place dès cette période. Le projet de parc naturel régional du Mont Ventoux est établi sur un périmètre de 39 communes et 5 intercommunalités. Fin novembre 2016, le médiateur de la région, Michel Sapin, a engagé une procédure de concertation avec les élus et l'ensemble des acteurs concernés. Le constat de ces 8 mois d'écoute, de visite, de rencontres, de lecture, de recherche et de questions sur un des territoires les plus emblématiques de la région a confirmé la nécessité de mettre en place un parc naturel régional dans le Ventoux, en terminant le travail engagé et créant les conditions d'une mobilisation sans précédent du territoire du parc. En mars 2018, la région a délibéré afin d'intégrer les préconisations du médiateur dans la feuille de route de la région pour la finalisation de la charte du parc et des futurs statuts du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Ventoux. Le président du conseil régional, Renaud Muselier, a installé début 2018 un comité de pilotage présidé par Mme Jacqueline Bouillac. Il a eu pour objectif la reprise de l'avant-projet de charte du parc naturel régional du Ventoux. Il réunit les 39 maires, les intercommunalités du périmètre du projet de parc, le département de Vaucluse, le sous-préfet de Carpentras, ainsi que les 3 chambres consulaires, l'association France Nature Environnement et la Fédération départementale des chasseurs. Ce comité de pilotage s'est réuni à 2 reprises, le 14 février et le 18 avril 2018, dans le but de finaliser l'avant-projet de charte du Ventoux. Plusieurs ateliers et rencontres sur des sujets essentiels, tourisme, énergie-climat, agriculture, urbanisme-paysage, ont été organisés sur le territoire. Parallèlement à ces ateliers, des réunions spécifiques ont eu lieu sur des sujets majeurs avec les acteurs concernés, patrimoine culture, gestion de l'eau, biodiversité, chasse. La très forte mobilisation, plus de 50 participants à chaque atelier, et l'implication locale sur ces réunions ont permis de faire évoluer très favorablement l'avant-projet de charte. Cet avant-projet de charte a reçu l'avis intermédiaire du ministère de l'Environnement le 5 décembre 2018, accompagnée notamment de recommandations émanant des avis du Conseil national de la protection de la nature et des services centraux et déconcentrés de l'État. Le 14 septembre 2018, la Fédération nationale des parcs naturels régionaux a formulé son avis intermédiaire. Les demandes de modification ont été intégrées dans l'avant-projet de charte. Cet avant-projet de charte a été arrêté par le président du Conseil régional le 29 juin 2019. Il détaille, au travers des 13 orientations, des 4 grandes ambitions dont le territoire du Mont Ventoux souhaite se doter pour les 15 années de sa labellisation en parc naturel régional, une ambition cadre pour un projet de territoire partagé où est exprimée la volonté de mutualisation à l'échelle du territoire Ventoux et d'appropriation par le plus grand nombre d'objectifs communs. Ambition 1, protéger et révéler nos patrimoines, socle de l'attractivité qui porte sur la protection et la valorisation de nos patrimoines naturels et cultures exceptionnelles. Ambition 2, soutenir une économie durable qui valorise les ressources naturelles locales, qui concerne l'accompagnement au développement économique et notamment agricole, avec des objectifs d'organisation par filière, de développement de l'économie circulaire et de sobriété énergétique. Ambition 3, ménager le territoire en s'appuyant sur ses spécificités, porte sur l'accompagnement du développement urbain et la préservation des paysages du Ventoux et de l'identité rurale de nos villages. Le projet de charte est accompagné d'un plan de parc qui reprend l'ensemble des mesures spatialisées de la charte. Ce projet de charte a été soumis par la région à enquête publique du 13 mai au 14 juin 2019. La commission d'enquête a rendu un avis favorable en date du 18 juillet 2019. La région a l'initiative de la procédure de création d'un parc naturel régional. Ainsi, le président du conseil régional a adressé à notre commune un courrier en recommandé avec accusé de réception, demandant au conseil municipal de délibérer, dans un délai de 4 mois à compter de la date de réception de ce courrier, sur l'approbation de la charte du parc naturel régional du Mont Ventoux et de ses annexes, telles que détaillées dans l'objet de la présente délibération. Le conseil municipal doit désormais prendre position sur la charte du parc naturel régional du Mont Ventoux. En effet, pour intégrer le futur parc naturel régional du Mont Ventoux, les collectivités territoriales concernées doivent approuver sa charte et ses annexes par une délibération positive et sans réserve. Conformément au Code de l'environnement, l'approbation du projet de charte emporte demande d'adhésion au syndicat mixte de gestion du parc. Le comité syndical du SMAEV, une fois l'ensemble des collectivités ayant délibéré, devra adopter les statuts du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Mont Ventoux, tel que présent en annexe de la charte. Cette révision des statuts du SMAEV devra être approuvée au plus tard lors de la première réunion du comité syndical qui suivra la publication du décret du Premier ministre portant création du parc naturel régional du Mont Ventoux. Le conseil régional se prononcera quant à lui à l'issue des 4 mois de consultation et au regard des délibérations favorables recueillies, approuvera le périmètre proposé au classement. Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et l'ensemble du dossier, sont ensuite transmis par le préfet de région au ministère chargé de l'Environnement et aux instances nationales pour avis final avant signature du décret du Premier ministre. Où il est exposé de Monsieur le maire, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'environnement, vu le courrier du président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 25 juillet 2019, il est demandé au Conseil municipal d'approuver l'adhésion au syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Mont Ventoux, d'approuver sans réserve le projet de charte du parc naturel régional du Mont Ventoux et ses annexes, comprenant le plan du parc naturel régional du Mont Ventoux, le projet du statut mixte de gestion du parc naturel régional du Mont Ventoux, l'emblème figuratif propre au parc, logo du parc naturel régional du Mont Ventoux, le programme d'action et le plan de financement prévisionnel portant sur les trois premières années du classement, et d'approuver le montant de la cotisation de la commune tel que fixé dans les statuts du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Mont-Ventoux, qui entreront en vigueur après parution du décret du Premier ministre. Voici donc lecture de la délibération. Y a-t-il des questions particulières ?
Je ne sais pas si c'est le moment, mais t'imagines que oui. Demande d'approuver sans réserve le projet de charte. Pour ma part, je m'abstiendrai parce que j'ai beaucoup de réserves sur ce projet de charte. Sur le parc, non, je suis tout à fait d'accord, je l'ai dit toujours dit. Mais sur cette charte-là, j'ai mis un certain nombre de réserves. Alors, je ne sais pas si ça marche. Réserve pourquoi ? Rapidement, parce que sinon on ne va pas débattre pendant des heures, hein, parce que je me suis déjà exprimé là-dessus. C'est un projet de charte qui fait la part belle aux questions d'aménagement du territoire. Les questions environnementales me semblent insuffisamment prises en compte. Ça, c'est une part importante. S'il s'agit de faire un parc pour aménager les stations de ski ou acheter une dameuse, pour moi, ce n'est pas là l'essence même d'un parc naturel régional. Un point important, c'est sur la question aussi des protections des patrimoines et des paysages. Il n'y a rien dans cette charte qui va préserver de l'urbanisation un certain nombre de sites. Voilà. Je pense à l'UTN de Ballocène, hein, je pense à la partie naturelle du Gros-Eau, la partie haute, où rien n'est dit dans la charte, rien ne permet de protéger cette partie-là. Et c'est dommage, alors que ça devrait pouvoir le faire. La question, une autre question des continuités écologiques, sur le Ventoux, pas de souci, elles sont en place, elles sont préservées. Sur la plaine du Comtat, elles n'y sont pas du tout. Hein, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place des zones commerciales, on est en train de mettre en place des rocades, etc., qui va empêcher cette continuité écologique de pouvoir se mettre en œuvre. Et là, sur la charte, il n'y a rien qui est dit là-dessus. Un autre point, et c'est la question de la qualité des eaux. Il est dit qu'elle est globalement moyenne et les teneurs en nitrates et pesticides sont à l'origine du déclassement de la qualité des eaux. C'est la charte qui le dit. Et derrière, on ne trouve rien qui va permettre de mettre en œuvre une protection de ces zones de captage sur notre territoire. La zone de basse, on le verra avec le rapport de... Du Rhône-Ventoux, la zone de basse Pessade est complètement polluée et derrière, on ne sait pas trop comment faire. Ça, c'est les points liés à certaines contradictions sur l'environnement. Après, sur la gouvernance, la configuration de la gouvernance, je ne sais pas si vous avez regardé, collègue élu, me paraît bien compliquée. Hein, on a une mainmise de la région sur ce parc-là, avec obligatoirement un président ou vice-président qui sera un conseiller régional. On a un nombre de voix important au sein de la région. Alors, il y a eu des tentatives hein, de dire les 9 communes du massif, là, vont être un petit peu plus en avant. Certes, elles le sont en avant au niveau du conseil syndical, elles le sont moins au niveau du bureau, elles le seront encore moins au niveau des vice-présidences qui va gérer un petit peu cette question-là. Donc, pour moi, ça me pose souci, cette gouvernance-là, hein, assez complexe quand même, parce qu'on va retrouver un certain nombre de mêmes personnes sur ces gouvernances. La question du budget, un budget que j'estime pas ambitieux, budget d'1,827 million. Sur ce budget-là, 66% sont des charges de fonctionnement, donc du SMAEV, syndicat mixte d'aménagement qui se transforme en syndicat de gestion du parc. C'est peut-être là aussi la problématique, hein, qu'on va rester sur une priorité liée à l'aménagement. Et des cotisations, 3 euros hein, par habitant, avec certaines communes des contributions fixes. Mais ce budget-là me semble un peu en dessous des moyens qu'il faudrait aujourd'hui. Peut-être que tu le partages, et je sais que tu le partages, mais il faudra ramener plus de moyens sur ces questions-là pour que le parc ait quand même un budget nécessaire à ses ambitions. Parce que si on regarde, tu l'as dit, 5 ambitions, 3 orientations, 40 mesures, toutes ces mesures sont intéressantes. Hein. On dit on va protéger, on va améliorer, on va, mais derrière, concrètement, quand on regarde le budget, eh bien, il reste 20 000 euros ou 30 000 euros pour faire une dizaine d'actions sur le territoire. Donc peu de moyens. Voilà, voilà moi, rapidement, hein, les points que je souhaitais soulever sur cette adhésion, puisqu'il s'agit bien d'une adhésion à la charte. Hein. Voilà. C'est pour ça que sur cette adhésion-là, moi, je serai sur une position d'abstention, parce que je crois encore que ça peut évoluer, que peut-être dans les prochaines échéances électorales, il y aura d'autres configurations, il y aura d'autres publics et d'autres personnes qui seront à la tête de ce parc. Voilà pourquoi je serai sur cette abstention.
Ça marche. Bien, y a-t-il d'autres contributions ? Monsieur Constant,
oui. Oui, bon, bien évidemment, nous allons voter contre cette délibération, mais notre argumentation ne se fera pas autour des points discutables sur cette charte et sur sa mise en œuvre, mais plutôt sur la méthode employée, sur le non-respect des engagements et, de facto, sur le non-respect des administrés. Pour argumenter notre position, je vais faire un historique rapide, certes, mais nécessaire, sur ce dossier qui dure déjà depuis plus de deux mandats. En 2008, le candidat Luc Reynard promet une consultation et il écrit « Organiser un référendum est un gage de respect envers les administrés ». Cinq ans plus tard, lors d'une réunion à l'Oustad d'Anaïs, j'étais présent, une partie des personnes dans l'Assemblée y était aussi, lors d'une question... Le maire, donc, a eu l'occasion de dire qu'il ne ferait plus de référendum et que le moment venu, le conseil municipal déciderait. Alors, la raison évoquée à l'époque, qui m'avait fait un petit peu sourire, c'est que lors d'une consultation, il n'y a que les gens contre qui vont voter et les gens pour n'y vont pas. En fait, la vraie raison, à 5 mois des élections, comme tout le monde le sait, et on le vérifiera 4 mois plus tard, il n'y avait pas d'opposition annoncé. Donc du coup, c'était beaucoup plus facile de dire qu'il n'y aurait plus de référendum. La preuve, 4 mois plus tard, en février 2014, face à une opposition déclarée, le maire donc s'impose un rétropédalage digne d'un politique rompu à l'exercice et écrit le candidat Luc Reynard, on a les papiers s'il faut, il n'y a pas de souci. Le candidat Luc Reynard s'engage une fois la charte établie, a consulté la population par un référendum. Ce jour, à nouveau, 5 ans plus tard, en gros, on est sur des récurrences de calendrier, et chacun comprendra pourquoi, nous devons nous exprimer donc sur ce dossier sans que la consultation promise ait eu lieu et sans que les engagements pris par la liste Luc Reynard ne soient tenus. Pour moi, le conseil municipal n'a aucune légitimité ce soir à voter sur ce dossier. Mon analyse est la suivante. J'ai noté, et tout le monde a noté, la récurrence, en fait, suivant que l'on soit candidat ou que l'on soit maire en place, on adapte le discours. On adapte le discours, forcément, parce que le but, c'est d'être réélu. Peu importe les engagements, si on sait pertinemment qu'on ne les tiendra pas. De la politique pure jus, au détriment de l'histoire, du territoire et des administrés. Enfin, avant de conclure, il me vient 2 réflexions. La première, c'est que si la consultation avait eu lieu, nous nous serions rangés derrière le verdict des urnes. C'est-à-dire que nous serions alignés sur le vote démocratique, sur le vote du plus grand nombre, et non sur une minorité, parce que le but, quand même, c'est que le plus grand nombre puisse s'exprimer et décider, et non une minorité, qui plus est la minorité qui a promis une consultation. Et deuxième point, ce jour, la défiance envers les politiques est de plus en plus grande. Et elle trouve de quoi se nourrir avec ses agissements. Le dégagisme qui est en train de se mettre en place n'est pas prêt de faiblir avec ses agissements. En conclusion, parce qu'il est temps que j'arrive à ma conclusion, je propose que l'on organise dès que possible une consultation Et si besoin, suivant le résultat, nous irons toquer à la porte du parc qui nous accueillera le cas échéant bras ouverts. Contrairement à ce que l'on pourra vous dire ce soir. Car le PNR du Ventoux sans Bédouin et sans le Ventoux ne serait pas vraiment le PNR du Ventoux. Et ça, tout le monde le sait, dans la salle, et les élus de la région le savent également. Et puis, si ça a 8 mois ramené à l'échelle de la durée de vie d'un parc, tout le monde conviendra, c'est insignifiant. Donc j'appelle ce soir les élus attachés à la parole donnée, les élus qui placent la morale, le territoire et les administrés au-dessus de la politique politicienne à voter contre ce projet. Et je les invite à débattre autour de cette proposition qui, pour moi, restaurera la démocratie. Merci.
Bien, je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions ?
Oui, est-ce que tu pourrais répondre déjà, Patrick t'a posé des questions, Alain a fait un discours, si c'est juste pour qu'on dise ce qu'on a à dire et qu'ensuite on passe au vote, ça me paraît un peu léger. Donc Alain a fait une proposition, ce serait peut-être bien que tu lui répondes.
L'ordre du jour ne prévoit pas une proposition de négociation sur quelque chose qui n'y est pas inscrit. Je vous rappelle tout de même que vous avez eu la délicatesse de saisir à une époque la préfecture pour une délibération que nous avions aménagée pour vous être agréable, parce que ce que vous exprimiez, ma foi, pouvait se concevoir, et vous voudriez aujourd'hui que l'on recommence la même chose. Est-ce que vous avez quelque chose à dire de particulier sur le... Donc,
comme d'habitude, tu noies le poisson et tu changes de sujet. La remarque que je fais, c'est que sur ce projet de charte, il n'y a pas la durée. C'est quand même extraordinaire. Sur le projet de délibération, il n'y a pas la durée de la charte pour laquelle on s'engage. Non, mais on va voter quelque chose où il n'y a pas le nombre d'années pour lequel on s'engage. Donc, est-ce que cette délibération va être valable ? Là, je pose réellement la question. Il n'y a pas la durée.
Mais écoutez, il est fait, si c'est une question, alors il y a plusieurs choses, allez-y. Il y a des questions de fond et des questions de forme. Concernant les deux interventions que je viens d'entendre, celle de M. Campon et celle de M. Constant. Simplement pour couper court à ce que vous dites, il est bien évident que si une délibération de 2 pages reprenait ce qui est contenu dans les 400 pages du projet de charte du parc qui est à votre disposition, que vous avez pu consulter et autres, on se demande quel serait l'intérêt. Donc d'en avoir quelque chose d'aussi, d'avoir quelque chose d'aussi important. Effectivement, mon Ventoux 2035, ne serait-ce qu'à la première page, bon, mais peut-être n'avez-vous pas levé les yeux au moment de la lecture. Bon, sur les quelques arguments, oui, allez-y.
C'est tout. C'est un réel souci. Voilà, j'avertis tout le monde, c'est un réel souci. On après, il ne faudra compris. Pas dire que peut-être la délibération sera retoquée, on ne sait pas.
On a bien compris où vous alliez en arriver.
Non, mais pas du tout. Voilà. On vient de voir la délibération en même temps que tout le monde. Hein. Je veux dire, le projet de délibération, il est devant nos yeux depuis 18h30. Hein.
Écoutez, on verra la suite. Monsieur Constant, allez-y.
Oui, moi je trouve curieux, alors je vais parler à mon nom, mon expérience. Ça fait quand même 2 mandats que je suis élu sur la commune. Nous n'avons jamais eu une discussion, l'ensemble des élus, sur ce dossier. Je trouve ça extrêmement grave. Ce jour, je vous invite à rentrer dans la discussion, dans le débat, vous avez le droit d'être pour. Ça ne me cause aucun souci. Et vous le savez. Par contre, vous êtes engagé à quelque chose que vous ne tenez pas. Ça me cause un souci. Par contre, et je le dis, cette discussion, on ne l'a jamais eue. Et dans une démocratie, je trouve ça vraiment dommage. À un certain moment, que les gens n'aient pas le courage de leur opinion, le courage de la parole donnée, À quoi sert un conseil municipal? Moi, franchement, j'ai honte. J'ai honte qu'on fonctionne comme ça. On n'en a jamais discuté. 2008-2014, aucun conseil municipal n'a abordé le sujet où il y a une discussion et un vrai débat. Aujourd'hui, on va adhérer à ce projet parce que vous allez voter pour et on n'en aura jamais discuté. Est-ce que vous avez pris conscience de cela? C'est un sujet important, la transparence par rapport aux élus, des élus par rapport aux administrés, c'est important. Les gens, ils attendent ça, les élus. Ils n'attendent pas autre chose. Et ce jour, zéro. Il est temps de se réveiller.
Oui. Moi, j'aimerais qu'on fasse un tour de table pour que tout le monde donne son avis sur la question. Chantal, on aimerait t'entendre. Oui.
Il va vite être donné par l'expression du vote de chacun. On ne va pas recommencer les débats. On est tout à fait une démocratie.
On n'a jamais eu de débat.
On est tout à fait une démocratie. Merci.
On n'a jamais eu de débat. On ne va pas dire qu'on va recommencer les débats. On pourrait l'attaquer, tout simplement, non, avec un peu de courage.
Messieurs, le seul argument de la campagne précédente qui nous opposait, c'était d'être pour ou c'était d'être contre le parc. Vous avez choisi d'être contre, mais je crois que la population vous a largement répondu à 58-42%. Donc aujourd'hui, vous voulez, dans un dernier excès de bravoure, donc rester sur les positions qui sont les vôtres, et rien ne trouvera grâce à vos yeux. Donc je crois que chacun a clairement travaillé aussi. Lorsque vous parlez, messieurs, de débat, si l'on regarde les feuilles de pointage des différents ateliers qui se sont tenus, combien de fois trouve-t-on votre nom? Quand on entend, et je n'ai pas malheureusement la mémoire courte, moi non plus, et quand lors des premières réunions, on rétorquait, monsieur Bernard, et vous étiez à l'époque l'un de mes colistiers, quand vous nous disiez que votre adresse mail n'était pas la bonne, et autres arguments fallacieux de même nature. Est-ce que vous pensez que vous étiez là dans une démarche constructive? Alors donc je crois que l'on va...
Là je vais être obligé de répondre.
Bien sûr, c'était le secrétariat du SMAE. Voilà.
Là je vais être obligé de répondre.
Alors donc laissez-moi terminer de tenter, merci. Voilà. Bien, donc moi je vais resynthétiser donc, ce que vous disiez. Effectivement, Patrick, tu as repris un certain nombre de points qui peuvent... Oui, poser débat, Sacha, donc à un moment donné, il ne faut pas confondre non plus les chartes de parc, les PLU, les SCOT. Hein, chacun a des compétences, chacun a des intervient dans un certain nombre de domaines. Et donc, bon, pourquoi pas, hein, tout peut demain évoluer. Là, sur le budget, eh bien, l'avis que tu exprimes sur le fait que le budget ne soit pas suffisamment important, d'autres nous disent au contraire que le budget de ce projet l'est beaucoup trop. Alors, que vous dire, hein, chacun le jugera à son nom. Pour ma part, c'est une simple remarque que je fais. Je pense que ce budget a été étudié correctement et à propos par les services du conseil régional qui est quand même le premier financeur, ce qui explique un petit peu ce que tu exprimais aussi par rapport aux places prépondérantes qui sont données aux conseillers régionaux, mais je crois que c'est un petit peu ce qui se passe, hein. Si on prend notre exemple, le syndicat forestier de Vaucluse, donc qui est chargé de l'entretien des pistes, mais le principal, la présidence et autres sont tenus par des conseillers départementaux, puisque ce sont eux qui abondent financièrement. Bien. Donc, repartir de zéro, ça semblerait un petit peu compliqué. Bon, quant à vous, messieurs, bien sûr, on peut comprendre votre dépit et votre irritation. Hein. Par contre, quant à l'évolution du projet, le projet, il avait peut-être commencé avant même que vous soyez élu avec moi dans ma deuxième mandature de maire, ça c'est certain. Voilà. Donc, oui, vous étiez à ma deuxième mandature de maire, et voilà. Et ça fait 30 ans que j'y suis, voilà. Je vous remercie, c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais. Et par contre, ce qui est assez singulier avec ce projet, c'est que justement, les participations aux échanges, la pression que nous avons pu mener, a permis d'avoir des avancées significatives qui sont les suivantes et que vous ne pouvez ignorer. Dans un parc, d'une manière générale, il n'y a pas cette règle de représentation proportionnelle telle que nous l'avons ici, que nous avons réussi à l'obtenir, avec les 9 communes du centre. Nous avions aussi estimé que le poids des intercos, dont les communes ne participaient pas ou participaient très peu au territoire du parc, ne devait pas être prégnant. Et c'est le cas puisque deux de ces intercommunalités, qui ne possèdent chacune qu'une commune, je vous l'accorde, mais donc n'auront simplement mais pas de voix. Ce sera simplement une participation en tant que personne publique associée. Et quant aux intercos en elles-mêmes, qui sont souvent découpés avec plusieurs communes qui sont soit à l'intérieur du projet de parc, soit à l'extérieur, eh bien, leur poids est tout de même très réduit, puisque vous voyez, donc, il s'agit simplement d'une voix pour chacun des EPCI. Enfin, ça aussi, vous l'avez dans la charte. Et ensuite, et ça fera aussi la liaison avec la question suivante, donc c'est que faire un parc, certes, mais cela signifie aussi que le syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux, qui est propriétaire des remontées mécaniques, par exemple, parmi d'autres compétences qu'il exerce, en disparaissant, va devoir trouver une solution, si j'ose dire une succession, pour la propriété et la gestion de ces installations. Et là aussi, c'est un point que nous avons voulu mettre en avant et qui est sur le point de se résoudre, de manière à ce qu'on puisse continuer à avoir sur ce territoire, où certes, bien entendu, la démarche est celle de la protection environnementale, mais aussi la démarche est celle sur le développement économique. Et donc, on sait que les stations, tant du nord que du sud, participent à la vie économique de ce territoire emblématique. Et donc, c'est aussi un des points sur lesquels nous avons voulu une prise en compte, et cette prise en compte, nous l'avons eue. Donc, à ce jour, les intérêts de la commune donc, ont été bien défendus. Le parc est un projet qui est équilibré, qui prend en compte les caractéristiques de chacun, et en particulier celles des communes du centre de ce parc. Et donc, partant... Je vous propose simplement, moi, de passer au vote. Et on pourrait continuer, mais on ne va pas refaire l'histoire du parc depuis les 15 jours.
Ça fait 5 minutes que
je vous en remercie. Je vous en remercie.
On est attaqué, on va quand même.
C'est pas moi. J'ai envie de dire. Pour moi, c'est important quand même que les élus prennent conscience qu'il faut changer d'optique. On n'est plus dans la façon ancienne de gérer les affaires. Aujourd'hui, on est dans une urgence environnementale, on est dans une urgence climatique. Je ne sais pas si tu as vu le dernier rapport qui est sorti hier, quand même. Hein, 2100, on est à 7 degrés supplémentaires. Donc des canicules, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est vrai que le parc, pour moi, peut amener un certain nombre de solutions, même toutes petites soient-elles. Et c'est en ça que je souhaitais, moi, que le parc se mette en place. Et là-dessus, sur cette charte, on n'y est pas. On est encore sur des visions très... aménagement de territoire, on n'est pas sur des visions protection environnementale et autres. Voilà, pour moi c'est ça la question importante. C'est tout, j'en dirai pas plus, mais c'est une autre façon de voir les choses. Et il faut qu'on en prenne conscience, nous, même en tant qu'élus d'une petite commune. On a des choses à faire, on a des actions à mettre en œuvre là-dessus.
Je suis d'accord avec ce que dit Patrick sur l'environnement. Par contre, au sujet de... des communes autour du Ventoux qui ont plus de voix que les autres, c'est ça. Il faut quand même rappeler que ce sont les maires qui, au départ, étaient contre le projet, qui ont obtenu d'avoir plus de voix. Donc toi, tu faisais partie de la réunion qu'il y a eu à Marseille, chez Renaud Muselier. Il y avait exactement 8 maires sur les 9 de convoqués. Et apparemment, bon, tout le monde connaît tout le monde sur ce territoire. Apparemment, ce sont les maires qui étaient opposés au projet au départ, qui ont obtenu, donc ça, tu te l'accordes, mais bon, on a discuté avec tout le monde, on sait très bien que c'est les maires qui étaient opposés au projet. Ensuite, je vais m'adresser aux élus, l'histoire se répète. Lorsque nous étions élus avec le maire actuel, nous étions adjoints tous les deux avec Alain, moi je m'occupais de la forêt, lorsqu'il nous a dit « je ne ferai pas de référendum comme je l'avais promis », nous sommes partis, nous n'avons pas cautionné. Aujourd'hui, 6 ans après, vous cautionnez. Ne vous inquiétez pas, les gens s'en rappelleront. Vous allez cautionner ce que pendant 6 ans, il a été dit qu'on allait faire un référendum. Et aujourd'hui, on vote et jamais personne ne s'est exprimé sur le sujet. Lorsque je pose la question, j'aimerais qu'on fasse un tour de table, Monsieur Luc Reynard interdit à tout le monde de parler. Vous voyez, nous, nous sommes dans l'opposition depuis 6 ans, on a le droit de s'exprimer.
Oui, voilà. Et moi...
Voilà. Non, mais dernier... Donc, c'est le mandat du mensonge. Je regrette. Les promesses non tenues, c'est la politique d'avant. Ce n'est plus la politique d'aujourd'hui. Pourquoi les gens rejettent la politique? Alors là, je ne fais pas de politique droite ou gauche. Hein. Loin de moi cette idée. Pour quelle raison les gens ne font plus confiance aux élus? Justement, parce que ce soir, c'est ce qui est en train de se passer. Vous êtes l'exemple type des promesses non tenues. Oui. Et de soutenir des mensonges permanents. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Je souhaite intervenir une dernière fois. Quand on relate tout à l'heure, effectivement, les élections de 2014, je dois te rappeler que tu avais quand même promis un référendum. Donc, il faut quand même remettre les choses en place. Tu n'as jamais dit en 2014, je suis pour le parc, je ne ferai pas de référendum. Je ne sais pas si vous avez perdu la mémoire ou quoi. Là, il y a une perte de mémoire collective. Attention, c'est dangereux, là. Vous êtes sur la mauvaise pente. Donc réveillez-vous, vous êtes en train de cautionner des propos qui ne sont pas tenus. Voilà. C'est ça le vrai débat, le vrai fond du problème. Ce n'est pas les plus et les moins de la charte. C'est ce qu'on a écrit et ce qu'on doit faire et qu'on ne fait pas. Et c'est pour ça que les gens se détournent de la politique. Voilà.
Merci. Allume.
Oui, vous avez l'air de dire que monsieur le maire, tu n'aimes pas ces paroles, tout ça. Mais je voudrais quand même vous rappeler, monsieur Constant et monsieur Bernard, monsieur le maire a fait 3 mandats. Il a toujours une forte majorité. Quand un maire se présente, qui fait 3 mandats, je suis désolé, monsieur Constant et monsieur Bernard, c'est qu'il a confiance des villageois. Je vous remercie.
Mais écoutez, le problème, c'est de savoir si vous êtes là en campagne électorale ou si vous travaillez pour le territoire. Je crois que chacun aura bien compris. Je vous mets donc...
L'intervention, c'est celle de Joël, hein, c'est pas nous. Hein.
C'est celle de Joël.
Eh oui.
Mais enfin, quand vous donnez des rendez-vous, moi,
belle parole d'amour.
Je veux dire, il suffit d'avoir une boîte aux lettres dans Bédouin pour savoir que vous y êtes particulièrement actif. C'est d'ailleurs extrêmement luxueux, du papier glacé. Patrick, tu devrais dire quelque chose, parce que... Franchement, c'est un petit gaspillage environnemental, mais ça, c'était juste pour taquiner, c'était juste pour rire.
Travaux de l'édito fonctionnaient voilà. Payés par nos propres données.
Bon, est-ce qu'on peut s'exprimer? Alors, je vais le faire. Alors, moi, je voudrais dire que les débats, ils ont eu lieu au niveau de notre majorité, très souvent, et un accord unanime s'est fait jour, compte tenu justement du contenu de la charte. Il est vrai que certains aspects sont peut-être encore un peu légers, mais à l'avenir, c'est un petit commencement. Hier encore, on avait une réunion sur le débat climatique. Il est pris en compte. Il est pris en compte par la COV, il est pris en compte par le parc. Et tous ces sujets vont avancer et l'enceinte du parc sera une tribune bien meilleure que n'importe quelle autre pour faire avancer les projets, les sujets de climat. Donc, la majorité a débattu très longuement. Personne n'a été forcé. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Une deuxième remarque, elle tient à cette fameuse promesse. Aujourd'hui, le débat n'est pas... ne s'oppose pas en termes de référendum, d'interrogation. Il y a une région qui entend faire un parc. D'ailleurs, je préviens les gens qui sont présents que 15 communes ont déjà voté pour et que nous sommes la 16e aujourd'hui. Le débat, c'est que nous avons un président de région qui a décidé de faire un parc et il a décidé du cheminement qui nous conduit vers le parc. ce cheminement, c'est un vote du conseil municipal. Il n'a pas laissé la place à rien d'autre. Alors, il y a 39 communes dans ce parc. N'allons pas nous singulariser. Nous souhaitons faire comme le président de la région nous a demandé de faire, et d'ailleurs de voter sans réserve. C'est bien la preuve de ce que j'avance. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Bien. Je pense que...
Et pas du tout, c'est pas... Non, là, tu caricatures.
Je suis un peu surpris de voir un élu qui ne s'est pas encore aperçu qu'il y avait des strates qui pouvaient avoir des poids prégnants.
Le président de la région n'a pas de...
Et même un professionnel. Bien, maintenant, je vais vous...
Oui. Le président de la région n'a pas demandé à ce que nous votions comme il l'entend. Il a demandé à ce que nous votions tout court. Et il a prévu que les communes qui ne voteront pas pour l'adhésion ne feront pas partie du parc. Voilà.
Bien, je vous propose maintenant de vous exprimer sur cette délibération, même si pour certains elle semble incomplète quant à sa durée. Donc, qui est contre cette délibération? Donc, M. Constant, M. Bernard, Mme Perrin et le pouvoir, M. Rossetti. C'est ça? Donc, 4 contre. Une abstention, Monsieur Campon, merci. Qui est pour? Très bien, très bien. Donc, merci pour cette unanimité. Question numéro 2. Avis de la commune de Bédouin sur la reprise du développement touristique du Mont Ventoux, Chalet Reynard par la Cove. Monsieur le maire rappelle que la commune de Bédouin avait transféré la gestion de la station du Chalet Reynard, Ventoux Sud, au syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux, Maev, à l'instar de la commune de Beaumont-du-Ventoux pour le Mont Serein. Avec la transformation annoncée du Maev pour le début de l'année 2020, le syndicat mixte n'exercera plus cette compétence et, en principe, restituera la gestion des stations aux deux communes, chacune pour ce qui la concerne. À la date de la prise d'effet de cette révision statutaire, le SMAEF restituera donc les équipements, droits et obligations et contrats en cours. Après une étude conduite sous l'égide de la COVE, portant sur le devenir des stations du Mont Ventoux, à laquelle ont été associées la commune de Bédouin ainsi que des professionnels, dont l'Association de développement touristique du Ventoux Sud, gestionnaire de la station, la région, le département et les services de l'État, il en ressort une opportunité de développer les stations réunies du Mont Ventoux. Ce n'est pas marqué sur votre délibération, mais cela suit une observation de la Cour des comptes qui était venue donc vérifier inopinément un certain nombre de documents locaux. Or, la COV s'engagerait à assurer d'une part la pérennité du contrat avec l'Association de développement touristique du Ventoux Sud, et d'autre part, la mise en œuvre d'un programme d'investissement pour les deux stations du Mont Ventoux. En effet, à l'appui de cette dynamique, un programme ambitieux de développement sur les stations a été retenu à hauteur de 2 millions d'euros, porté par la future autorité organisatrice de la compétence. La région et le département se sont engagés à le cofinancer en investissement, mais aussi en fonctionnement, à la condition que la COV soit la nouvelle autorité organisatrice de la compétence. L'État a également manifesté son intérêt et son intention de participer financièrement. La gestion des stations, quant à elle, resterait déléguée aux deux associations actuelles. De ce fait, les contrats en cours se poursuivraient jusqu'à leur terme, fixé en 2022. Dans cette perspective, la COV doit déclarer l'intérêt communautaire du développement touristique du Mont Ventoux. Cela emporterait, à la date de cessation de l'activité de l'actuel SMAEV, le transfert des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que des contrats dont le syndicat mixte était titulaire et gestionnaire. Dans un premier temps, à la prise d'effet du changement des statuts du SMAEV, la COV se verrait transférer les équipements actuellement identifiés nécessaires à la gestion et à l'exploitation des domaines skiables et des activités ludiques. Exemple, remontées mécaniques et domaines skiables, chalets d'accueil et de fonction, véhicules, etc. Elle se substituerait simultanément au SMAEV par avenant au contrat de DSP, de l'ADPMV et de l'ADTMV. La commune sollicite préalablement l'avis des communes de Bédouin et de Beaumont-du-Ventoux sur l'intérêt communautaire. À ce titre, la COV serait compétente pour développer, créer, aménager, gérer et entretenir tous équipements, actions ou services dans l'espace touristique du Mont-Ventoux en accord avec la collectivité propriétaire. Seraient déclarés d'intérêt communautaire et transférés en conséquence les équipements et services suivants situés sur les deux stations du Mont-Ventoux et nécessaires à l'exercice de la compétence, soit pour la station du Chalet-Reynard à Bédouin, les bâtiments et matériels affectés au service des remontées mécaniques et des domaines skiables, chalets, billetteries et locaux techniques, le dispositif d'enneigement et d'entretien, dameuse motoneige, le mobilier et le matériel affectés aux autres activités de loisirs hivernales et estivales. Les contrats d'affermage feront simultanément l'objet d'un transfert à la COV contacté par voie d'avenant. Seront ainsi bien spécifiés les biens de retour nécessaires à l'exploitation du service qui reviennent en retour gratuitement à l'autorité organisatrice et les biens de reprise utiles mais pas indispensables que la collectivité a possibilité de racheter. La liste complète des biens, mobiliers et immobiliers, nécessaires à l'exercice de la compétence font l'objet d'un PV de transfert. Il est enfin précisé que l'intérêt communautaire et le transfert des biens prendraient effet à compter de la date d'entrée en vigueur des statuts modifiés du SMAEV, dans la mesure où il ne comporterait plus la compétence en matière de gestion des stations du Mont-Ventoux. Si l'avis des communes est favorable sans réserve, le conseil communautaire sera appelé à délibérer sur la reprise de la compétence à la suite du SMAEB. Si l'avis de la commune est défavorable ou réservé, cette dernière se verra restituer la charge de la gestion de la station du Chalet-Reynard à la date d'entrée en vigueur des statuts révisés du SMAEB. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L5211-57, vu les statuts de la COV portant compétence en matière de développement économique et touristique, considérant les statuts du SMAEV actuellement en vigueur, ainsi que la procédure de modification statutaire en cours visant à le transformer en syndicat mixte de gestion du PNR, moyennant la restitution aux communes concernées des équipements jusque-là gérés par le syndicat mixte, en vertu d'un transfert de la part des communes concernées. Étant précisé qu'une réunion de présentation de cette étude a été organisée pour les conseillers municipaux le 2 mai dernier, où il exposait de M. le maire, et sous réserve de délibération concordante de la part de la commune de Beaumont-du-Ventoux, il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la déclaration de l'intérêt communautaire de la COV pour le développement touristique du Mont-Ventoux. Bien, donc il s'agit concomitamment à la délibération précédente de trouver donc aujourd'hui un gestionnaire de ces équipements qui, je vous le rappelle, malgré tout ce qu'on peut en croire donc et imaginer, n'appartiennent pas à la commune de Bédouin. Des questions particulières ?
Juste les 2 millions d'investissements, ils vont. Parce qu'on a vu, on a participé à la question. Du constat, des deux stations, la réunion, etc., ça c'était intéressant. Mais derrière, on n'a pas vu quel projet il y avait sur l'aménagement de ces deux stations. Parce que ça me semble illusoire aujourd'hui de dire, on va pouvoir faire encore du ski sur ces deux stations pendant longtemps. Tu vois la dernière enneigement suffisant, c'était 2012. Aujourd'hui, ça fait quand même quelques années qu'on n'a plus d'enneigement suffisant pour penser domaine skiable, quoi. Donc voilà, s'il y a des projets d'aménagement qui soient différents.
Alors pour être succinct, initialement, donc bien sûr, le SMAEB est propriétaire des remontées mécaniques. Les premières concessions qui étaient faites, c'était justement simplement sur les sports d'hiver. Ont été ajoutées parfois, mais disons-le, maintenant on arrive à la fin, on n'aura plus de soucis, et ça concernait principalement la station du Mont-Serein, des activités d'été, et avec notamment les dévalcartes et autres, et des activités complémentaires qui permettaient à cette station, de par son caractère très mixte, de faire par exemple la collecte des poubelles pour l'intercommunalité de manière à se procurer quelques ressources, d'assurer des transports systématiques des techniciens donc qui devaient monter à la tour. Enfin, ils essayaient justement d'équilibrer leurs recettes. Sur les, donc tous ces chiffres ont été analysés Et on s'est rendu compte, bien entendu, d'une chose, c'est que l'hiver, effectivement, on se pose des questions quant à la poursuite de l'activité neige, même si l'on possède encore les uns les autres du matériel et, disons, on n'est pas fait retourner une station, mais faut-il encore que le premier flocon arrive ? Et donc, il a été imaginé, donc le cabinet a été consulté, savoir quelles pouvaient être les ressources que l'on pouvait développer. Nous, pour ce qui concerne le Sud, on a prévu donc de développer une partie complémentaire au bypark qui resterait bien présent. Et donc, un système qui permettrait d'accueillir plus de jeunes, plus d'enfants. Pour ce qui est le Nord, donc, il a été prévu notamment l'installation d'une tyrolienne. Je pense qu'on l'avait vu, ça, des projets tyroliennes. Oui. D'accord, tyrolienne, donc plusieurs. Oui. Le maire de Beaumont souhaiterait avoir une tubing. Une tubing, ce sont des chambres à air donc, qui permettent des descentes en lieu et place de la luge d'été. Et puisque la luge d'été a été jugée trop contraignante sur le plan environnemental et peut-être trop dispendieuse. Et par contre, le projet de canon à neige, ça je tiens à le souligner, a été abandonné. Compte tenu de nombreuses... Mais oui. Là, de la même manière, le maire de Beaumont souhaitait vivement et fermement que ça se passe, mais à la fois des difficultés techniques, puis, disons, un raisonnement par rapport au climat que nous connaissons actuel, font que l'on n'est pas allé plus loin. Mais pourtant, ça a été... Je ne sais pas s'il est encore convaincu, je ne suis pas sûr. Mais voilà, donc un certain nombre d'équipements. Mais par contre, pour ce qui concerne les investissements, oui, c'est bien d'avoir trouvé le soutien du conseil régional qui, au départ, n'était pas très favorable, puisque nous sommes la seule station du Vaucluse, c'est certain. Mais par contre, les départements voisins, le 04, le 05, le 06, en ont pléthore, et donc ils ne voulaient pas donc établir une jurisprudence en termes de fonctionnement, mais on a fait valoir justement que c'était un cas un peu particulier. Et de la même manière, le conseil départemental qui jusqu'ici était... Alors le conseil régional jusque-là avait toujours assuré les investissements lourds, et dernièrement la fameuse I-30, c'est-à-dire la remise à niveau de la révision trentennale qui permet donc jusqu'en pratiquement 2010-2020 de faire fonctionner, sauf s'il y avait un nouvel impératif technique. Donc le conseil régional a toujours assuré et donc est d'accord pour mettre en place des structures qui permettront une autonomie financière. Mais par contre, pour faire la jonction, le conseil départemental qui jusque-là a été sollicité au coup par coup, pour renflouer les finances lorsque la station n'avait pas fait une saison d'hiver suffisante, a vu d'ailleurs cette fonction disparaître de ses compétences, mais par contre, dans le cadre de l'accompagnement, peut tout à fait, donc ils sont sur une somme de 800 000 euros pour permettre un financement jusqu'à ce que les dites installations fonctionnent. Donc voilà un petit peu où nous en sommes.
L'usager, ce sera ma dernière question, de transférer à terme, là on transfère à la COV, mais après de transférer à la SPL, hein, qui a été mise en place pour la gestion touristique ou pas.
C'est pas exclu, parce que la COV en elle-même, bon déjà il faut que la COV prenne la compétence. Prendre la compétence, ça veut dire donc créer un service. Mais par contre, la COV peut très bien, comme on le fait avec l'OTI, faire une joint venture et donc à terme créer un budget annexe. On serait un peu dans ce cadre-là. Mais pour le moment, on en est à la mise en place. D'ailleurs, ce serait assez logique qu'une société publique locale qui a une chaîne d'activité qui peut être très large puisse gérer une station, j'ose plus dire une station de ski, mais disons des activités touristiques au sommet du Mont Ventoux. Pas d'autres questions, je le soumets au voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie pour cette unanimité. Question numéro 3. Pardon, d'accord. Bien. Madame Rasselet nous quitte, Madame Leclerc prend le pouvoir. Amen. Merci. Monsieur Faure, vous me lisez le troisième, s'il vous plaît.
Adhésion de la commune à l'Association des communes forestières de Vaucluse. Monsieur le maire fait part de la mise en place de l'Association des communes forestières pour le département de Vaucluse suite à l'Assemblée générale constitutive qui s'est tenue le 22 mai dernier. En effet, après plusieurs mois d'échanges et de réunions, une vingtaine d'élus se sont mobilisés pour se structurer et s'engager pour la forêt et sa valorisation. En présence des services de l'État, l'Association des communes forestières de Vaucluse a été constituée, portée par l'Association des maires de Vaucluse, avec l'appui du réseau régional et national des communes forestières et le soutien de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les communes ont ainsi concrétisé leur volonté de s'organiser pour être représentées dans les différentes instances départementales et faire avancer les sujets de la construction bois, la transition énergétique, la gestion durable des forêts et la valorisation de la ressource locale dans le Vaucluse aux côtés des partenaires habituels. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les statuts et la composition du conseil d'administration de l'association nouvellement constituée, considérant l'intérêt pour la commune de Bédouin d'adhérer à l'Association des communes forestières de Vaucluse, considérant que le montant de la cotisation pour la commune s'élèvera à 600 euros, qui est la somme prévue pour les communes d'une strate de 3 000 à 5 000 habitants, il est demandé au conseil municipal d'accepter l'adhésion de la commune de Bédouin à l'Association des communes forestières de Vaucluse et de dire que la cotisation sera supportée par le budget annexe exploitation forestière et imputée à l'article budgétaire 62-81.
Très bien, merci. Donc, c'est l'Association des communes forestières a été créée dernièrement. Vous vous souvenez qu'à une époque, on avait le syndicat mixte forestier qui intervenait sur la totalité du champ de la forêt, à savoir la défense forestière contre l'incendie, le bois énergie, enfin, toute une gamme. Et la préfecture, donc, il y a quelques années maintenant, nous a demandé de remettre les statuts en conformité. Et le syndicat mixte vauclusien n'intervient plus que sur les DFCI. D'ailleurs, on aura une autre délibération. Hein. Donc, c'est simplement pour la protection du feu. Donc, il a fallu couvrir ce manque, ne serait-ce que pour pouvoir établir les relations parfois difficiles avec l'ONF, pas nécessairement au niveau local, mais surtout au niveau national, puisque vous savez que c'est un service public qui est encore sérieusement mis à mal. Je ne développerai pas davantage. Et donc a été créé en Vaucluse, où nous étions le seul département de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à ne pas en avoir, une association des communes forestières. Alors pour la petite histoire, donc j'en suis le président, ce qui explique que je ne lise pas la délibération et que je ne participe pas au vote. Voilà. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes chers collègues, avant que nous procédions au vote ?
Cette association, elle va agir comment ? Elle va faire quoi ? Rapidement, hein, si ça peut s'expliquer assez rapidement. Dans quelles instances ? Voilà.
Alors déjà, elle va être présente aux commissions départementales pour les attributions de permis de construire, en particulier dans toutes les zones rurales. Donc pour essayer de pousser les agriculteurs. Elle va être présente sur le terrain pour la diffusion de tout ce qui est chauffage bois énergie, c'est-à-dire études de projets pour les communes, etc., etc. Donc c'est une prestation qui va être faite. Elle va intervenir, bien entendu, au niveau national. Nous participons à l'Assemblée générale nationale et nous étions cette année à Épinal. Et donc elle est particulièrement vigilante quant à la répercussion du coût des services de l'ONF. Vous vous souvenez qu'il y a actuellement jusqu'à maintenant, donc l'Office national des forêts exerçait son activité en prélevant de l'argent sur les recettes de la commune, c'est-à-dire 10% sur les communes de montagne comme la nôtre et 12% sur les autres. Et l'État compensait la différence. L'État ayant réduit, ou voulant réduire du moins son intervention, a proposé une participation de 2 euros à l'hectare pour chacune des communes concernées. Alors, suivant la taille des communes, c'était quelque chose de relativement ridicule, on va dire, et d'autre part, des communes qui ont un fort potentiel de production de bois, c'était quelque chose qui était négligeable. Nous, le problème, c'est qu'avec nos 6800, 6300 et quelques hectares, là, on est imposé à raison de 2 euros hectare, c'est-à-dire à chaque 1er janvier, on se réveille, la forêt déjà nous coûte pratiquement 13 000 euros. Et il était question que cette somme passe à 14 euros par hectare, c'est-à-dire multipliée par 7. Alors vous imaginez bien que ben nous, pour les premiers, j'étais déjà monté à une époque donc à une assemblée générale à Nancy où ce fut quelque peu virulent parce que tout le monde trouvait que c'était disproportionné. Et donc on a réussi à maintenir à 2 euros hectare. Et par contre, il y a eu un engagement, mais bon, pour nous, on ne pèse pas beaucoup sur le marché forestier. Il y a eu un engagement des communes à mettre sur le marché un certain volume de bois. Parce que paradoxalement, le bois français n'est pas suffisamment présent dans les filières et on est obligé d'en importer, ce qui est quand même paradoxal quand on connaît l'état de notre territoire. Alors donc, vous voyez, on intervient beaucoup sur tout ce qui est dans ce cadre-là. Et puis d'autres activités, même il faudra passer les plaquettes où vous pouvez le... Voilà.
D'autres interventions avant que nous passions au vote ? Y a-t-il des votes contre, des oppositions? Donc adopté à l'unanimité, Monsieur le maire ne prenant pas part au vote. Je vous remercie.
Point numéro 4, adhésion de la commune à l'Association nationale des élus des territoires touristiques. Madame Leclerc, s'il vous plaît.
Monsieur le maire rappelle que par arrêté préfectoral du 27 avril 2018, la commune de Bédouin a obtenu la dénomination de commune touristique pour une durée de 5 ans. L'attractivité touristique du village contribue à son dynamisme et à son développement. L'Association nationale des élus des territoires touristiques a pour but la défense et la promotion des intérêts des communes touristiques et des stations classées auprès des pouvoirs publics. Les collectivités adhérentes bénéficient d'une représentation et d'un accompagnement pour les projets et problématiques touristiques. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les statuts de l'ANET, considérant l'intérêt pour la commune de Bédouin d'adhérer à l'Association des élus des territoires touristiques, considérant que la cotisation annuelle est proportionnelle au nombre d'habitants, population totale strate 4 999 habitants, cotisation 382 euros pour l'année 2019. Il est demandé au conseil municipal d'accepter l'adhésion de la commune de Bédouin à l'Association nationale des élus des territoires touristiques, de dire que la cotisation sera supportée par le budget principal de la commune et appelée à partir de l'exercice budgétaire 2020.
Très bien. Des questions particulières ? Je le mets donc au vote. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Les décisions modificatives dans le budget principal, Monsieur Faure, s'il vous plaît.
Alors, conformément à l'article L612-11 du Code général des collectivités, il est proposé une décision modificative au budget principal permettant d'ajuster les prévisions budgétaires initiales votées le 11 avril 2019, tout en maintenant l'équilibre budgétaire. Des crédits supplémentaires sont nécessaires pour procéder à l'imputation budgétaire au chapitre 20 et non 23 de la participation communale aux travaux d'aménagement et de sécurisation de la RD 974 réalisée sous maîtrise d'ouvrage départementale et qui s'élève pour l'exercice 2019 à 171 500 euros. De plus, afin d'intégrer dans l'actif la valeur du minibus que le club de foot Ventoux Sud cède à la commune. Des crédits sont à prévoir en recettes et en dépenses d'investissement au chapitre 041, opérations financières, et à hauteur de 29 519 euros. Vu la délibération numéro 2019-054 du 11 avril 2019 portant approbation du budget de la commune pour l'exercice 2019 et la délibération 2019-088 du 8 juillet 2019 décidant de modifier l'inscription budgétaire, DM numéro 01, vu le projet de décision modificative numéro 02, il est demandé au Conseil d'approuver la décision modificative 02 telle qu'annexée à la présente délibération.
Donc c'est le minibus du football. Alors bien sûr, dans la convention que nous passons avec le foot, bon, ils seront prioritaires comme ils l'ont été jusqu'à maintenant, mais c'est simplement un petit coup de pouce puisque le véhicule entrant dans la période où des frais peuvent être envisagés, eh bien, c'est la collectivité qui accepte de soutenir les jeunes en particulier dans ce domaine-là. Des questions particulières ? Oui.
Par rapport au minibus, il me semble bien qu'en fait le foot avait quand même obtenu 50% du prix à travers une subvention.
Oui, mais c'est nous qui avions compensé le reste.
Oui.
C'est nous qui l'avions payé. Oui,
oui. Moitié-moitié.
En fait, c'est même. Oui, le foot avait obtenu. Oui, c'était oui. La Fédération française qui avait fait une dotation.
De subvention.
Ouais.
Voilà.
Ouais, ouais.
Ok. Non, mais je tenais à préciser. En fait, c'est. Le foot avait réussi, par son entité, à obtenir 50% de subvention via la Ligue de football.
C'est ouais. Ça. Et la mairie en avait mis 50.
Tout à fait. Mais l'utilisation est partagée.
Partagée, mais largement prioritaire au foot. Hein.
Ouais. C'est très bien.
Eh bien, bien sûr. Merci, monsieur Constant. Des abstentions, je vous remercie pour cette unanimité. L'indemnité de conseil, oui, l'acquisition, puisqu'il nous faut. L'acquisition du minibus auprès du Ventoux Sud Football Club. Monsieur Faure, continuez.
Monsieur le maire rappelle que par délibération 2015-109 du 10 décembre 2015, le conseil municipal a décidé de l'attribution d'une subvention d'investissement au profit du Racing Club de Bedouin en vue de l'acquisition d'un minibus. Par courrier en date du 27 juin 2019, le président de Ventoux Sud Football Club propose de céder à la commune le véhicule Volkswagen Transporter immatriculé ED360YC à l'euro symbolique. Afin de répondre aux besoins du pôle enfance, jeunesse, éducation et action sociale, monsieur le maire propose de donner un avis favorable à cette acquisition en précisant qu'une convention de mise à disposition du minibus interviendra entre la commune et l'association pour les déplacements du club. Vu les crédits disponibles au budget principal, il est demandé au Conseil d'accepter l'acquisition pour l'euro symbolique du minibus immatriculé ED360YC et d'autoriser M. le maire à décider des modalités de mise à disposition du véhicule et à signer tout document afférent.
Très bien. Donc c'est l'écriture au comptable de de ce que nous venons de décider, donc des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. L'indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor. Monsieur Faure, s'il vous plaît.
Alors, monsieur le maire rappelle que par délibération 2018-089 du 17 septembre 2018, le conseil municipal a approuvé le versement d'une indemnité de conseil au profit du comptable du Trésor, chargé des fonctions de receveur municipal. En effet, sur la demande de la commune, le receveur municipal peut fournir des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment pour l'établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie, la gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et de l'aide aux entreprises, la mise en œuvre des règlements économiques, budgétaires et financières. Le taux maximum avait alors été décidé, soit 100%. L'attribution de l'indemnité de conseil est acquise en principe pour toute la durée du mandat du conseil municipal. Toutefois, au regard de la qualité dégradée du service rendu à la collectivité pour l'année 2019, monsieur le maire souhaite rappeler que l'attribution du taux reste à l'appréciation de la collectivité Il souhaite également attirer l'attention de la direction départementale des finances publiques sur la nécessité, la nécessaire pardon, proximité et disponibilité du comptable public. Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 97, vu le décret 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'État, vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités de conseil allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires, vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée au comptable non centralisateur du Trésor, chargé des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, et enfin considérant que le décompte des indemnités selon les états liquidatifs joints à la présente délibération fait apparaître un montant brut de 802,17 euros proratisé pour la période du 1er janvier au 31 août 2019, soit 534,78 euros. Il est demandé au Conseil d'approuver le versement à Mme Evelyne Giuliani d'une indemnité de conseil au taux de 50% en sa qualité de comptable du Trésor chargée des fonctions de receveur de la commune de Bedouin du 1er janvier au 31 août 2019. L'indemnité de conseil sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. Les sommes correspondantes au versement de cette indemnité seront imputées sur l'article budgétaire 62-25 de la section de fonctionnement.
Très bien, merci. Donc vous aurez saisi que suite au transfert de nos comptes à la trésorerie de Carpentras depuis la suppression de la trésorerie de Montmoron, donc nous avons eu un service qui a été assez chaotique, qui a nécessité certaines interventions un peu vives de notre part, dans la mesure où des blocages de paiement pour les entreprises donc étaient extrêmement préjudiciables. Je vous demande donc d'approuver la réduction de moitié de l'indemnité que l'on conseille vivement aux communes, je n'ose pas dire on oblige, mais vous m'aurez compris, que l'on conseille vivement aux communes de verser aux comptables. Ce qui, entre nous, est une manière élégante de leur donner une augmentation de salaire, mais sur le compte des personnes pour lesquelles elles travaillent, c'est-à-dire les contribuables. Mais des questions particulières ?
Ça va suffire à améliorer le service ? C'est la question qu'on peut se poser.
Oui.
Mais l'intérêt, c'est d'avoir le service. Après, bon, ok, là, on pose un acte.
Bien sûr. Mais là, nous sommes sur un départ. Madame Giuliani ayant quitté la trésorerie, on nous demande de solder ce que nous lui devons. Pour le moment, ça se passe bien. Souhaitons que l'exemple soit probant. Et je le soumets à vos suffrages, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Encore Monsieur Faure, budget annexe de l'exploitation forestière, DM numéro 1, première de l'année.
Alors, conformément à l'article L1612-11 du Code général des collectivités, il est proposé une décision modificative au budget annexe exploitation forestière permettant d'ajuster les prévisions budgétaires initiales votées le 11 avril 2019, tout en maintenant l'équilibre budgétaire. La présente décision modificative tient compte des réalisations d'ores et déjà effectuées et de celles en cours. Considérant les travaux de débroussaillement et de réfection des pistes de Piémont et de Saint-Estève, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le syndicat mixte forestier. Considérant que le Conseil régional a accordé une subvention de 50 000 euros à la commune de Bédouin pour les travaux de restauration du pavillon de Roland. Considérant la baisse des recettes liées aux droits de fouille des truffes à l'adhésion et de l'adhésion à l'association des communes forestières de Vaucluse, vu la délibération 2018-049 du 11 avril 2019 portant approbation du budget annexe exploitation forestière pour l'exercice 2019, il est demandé au Conseil d'approuver la décision modificative numéro 01 au budget annexe exploitation forestière, tel qu'annexé à la présente délibération.
Très bien, merci Monsieur Faure. Des questions particulières? Donc des rentrées, voilà, des rentrées, des sorties.
Dans une, là, hein.
Oui,
quatre. Même, quatre. Tu peux les,
oui.
Les reprendre.
Il y a la réflexion des bandes de débroussaillement, c'est les bandes de 10 mètres qui doivent être restaurées tous les 4 ans. Il y a la réfection des pistes des FCI de Saint-Estève et du Piémont. Il y a la cotisation à l'association des forêts, des communes forestières. Et puis, le quatrième. Voilà. Et les 50 000 euros de subvention pour le pavillon de Roland. Ouais.
Ouais. Très bien. Bien d'autres questions? Je le soumets au vote. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Point numéro 9, travaux de débroussaillement et de réfection des pistes de défense de la forêt contre l'incendie, approbation du programme établi par le syndicat mixte forestier. Monsieur le maire expose à l'Assemblée délibérante que le syndicat mixte forestier a déposé courant du mois de mars 2019 un dossier de demande d'aide financière pour la réalisation de travaux de défense des forêts contre l'incendie, dans le cadre de l'appel à projet 2019 du financement du programme de développement rural régional PDRR PACA 2014-2020. Ce projet concerne notamment la réalisation de travaux sur la commune de Bédouin et de Flassan pour le débroussaillement des bandes débroussaillées de sécurité et la réfection des pistes des FCI du Piémont et de Saint-Estève bénéficiant d'un financement de 80%. Pour ces travaux de débroussaillement, dont le montant total est estimé à 12 906 euros hors taxes, la participation communale s'élèverait à 2 433,60 €. S'agissant des travaux de réfection des pistes estimés à 27 081 € hors taxes, l'autofinancement communal sera de 5 053 €. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le dossier de programmation des travaux de DFCI établi par le syndicat mixte forestier, et la proposition financière reçue le 2 juillet 2019, vu le budget annexe 2019 pour l'exploitation forestière, il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable à la proposition de travaux sur les pistes DFCI et à l'inscription des crédits nécessaires, et de confier au syndicat mixte forestier le soin de réaliser ce projet. D'autoriser monsieur le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer tout document subséquent. Bien, des questions particulières? Oui.
La réfection des pistes, là, ça comprend quoi?
Ça comprend par endroits des réfections d'assises, notamment au niveau des colombées ou autres, des endroits où c'est devenu impraticable, et du broyage de chaque côté des pistes.
Avait déjà été fait.
C'est qu'une reprise. Ouais.
Mais on va de où à où, là?
Et on a donc... attendez, je suis joli. Là. Joli, là. Alors, piste de Piémont, piste de Saint-Estève. Et donc, on a pratiquement la totalité donc au niveau des clos.
C'est ce qui avait été fait
il y a 5-6 ans, un peu plus.
10.
Oui. Voilà, on a cette reprise. Mais c'est que, disons, c'est l'entretien du début du débroussaillement qui est maintenant devenu obligatoire et que l'on a commencé sur d'autres routes et chemins en prenant en compte les lieux, d'abord en priorité, les lieux les plus dangereux. Et en y associant, bien sûr, toute la population de Bédouin, je crois, combien avons-nous sollicité de 800 personnes qui ont été concernées pour les travaux de débroussaillement, pour lesquels le syndicat a identifié les maisons, a défini pour chacun la dangerosité des zones, a préconisé les interventions. Et c'est obligatoire. Alors, il est vrai que parfois, ça peut être contraignant, surprenant et cher. Enfin, on trouve toujours des solutions. Et là, donc, c'est la part communale, mais il nous faut montrer l'exemple. Bien. Je le soumets aux voix. Des oppositions. Oui, tu veux, vas-y.
Tanguy, était.
Excusez-moi du petit retard. Concernant la montée des colombées, il n'est pas prévu quand même de la bétonner. Bon, ça va ? Non, parce que...
La partie la plus mauvaise.
La plus mauvaise. Parce qu'à une époque, il s'en était parlé, je sais qu'on s'y était opposé. Et donc, c'était pour être vigilant par rapport à ça, quoi.
Non, pas bétonné, mais néanmoins, ça mérite bien d'être refait. Quoi. D'être...
Oui, ça
avec des coupures au dos.
J'y passe régulièrement, même en VTT, c'est compliqué.
VTT, c'est
mais à l'époque, on s'était opposé à ce qu'il la bétonne, et j'espère que ce ne sera pas le cas là. Quoi.
Non, c'est pas... ce serait encore plus cher.
Non, Alain, tu sais très bien, moi aussi, j'étais opposé, donc t'inquiète pas, je veille.
Oui, mais la vigilance, c'est. Ah, mais... c'est pas un souci.
Je le soumets aux voix. Des oppositions. Des abstentions, donc merci pour cet acquiescement. 10. Déplacement du chemin rural des Fougassés. Acquisition foncière pour les parcelles cadastrées section B, numéro 2320 et 2321. Monsieur Petit, s'il vous plaît.
Par délibération numéro 2018-101 en date du 17 septembre 2018, le conseil municipal a autorisé dans le cadre du projet de déplacement du chemin rural des Fougassés de procéder à des acquisitions foncières. Ces acquisitions foncières concernaient les parcelles B2303 d'une contenance de 49 mètres carrés et B2304 de 208 mètres carrés, issues du détachement de la parcelle cadastrée section B 1442 appartenant à Mme Evelyne Berendt. Lors de la délimitation de la future assiette du chemin rural concernant l'échange, il a été constaté un étranglement au niveau du poteau EDF, celui-ci devant être déplacé en rapport avec le fossé côté sud, aussi nécessitant une cession de terrain supplémentaire de 9 mètres carrés par Mme Berendt au profit de la commune. Un nouveau plan de division foncière de la parcelle B1442 a été établi ainsi qu'il suit et le nouveau modificatif parcellaire doit être approuvé par le conseil municipal. Division de la parcelle section B1442 en B2319 pour 3579 mètres carrés qui reste à Mme Berendt, parcelle B2320 de 217 mètres carrés qui sera achetée par la commune de Bédouin, la B2321 de 49 mètres carrés qui sera achetée par la commune de Bédouin et la B2322 de 105 mètres carrés qui reste la propriété de Mme Evelyne Berendt. Le prix d'acquisition reste fixé à l'euro symbolique et la commune supportera les frais afférents. La rédaction de l'acte sera confiée à Maître Arnoux, notaire à Bédouin. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le code général de la propriété des personnes publiques, vu le code de la voirie routière, notamment les articles R141.4 à R141.9, vu le plan local d'urbanisme de la commune de Bédouin, vu le budget de la commune, vu les plans de division foncière rectifiés de la parcelle B1442 et le nouveau modificatif parcellaire établi par le cabinet Grimont, l'acquisition des parcelles 2303 et 2304 devient sans objet. Il est demandé au conseil municipal d'acquérir les parcelles B2320 et B2321 issues du détachement de la parcelle initialement cadastrée B1442 d'une superficie totale de 266 mètres carrés pour l'euro symbolique, de dire que la commune prendra en charge tous les frais d'acte et d'autoriser monsieur le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer l'acte notarié ainsi que tout document subséquent.
Très bien, merci. Des précisions particulières. Donc c'est toujours donc on œuvre depuis longtemps pour essayer de tracer un chemin qui soit à la fois accessible et qui ne soit pas pourvu d'un poteau au milieu du passage des véhicules, ce qui est toujours gênant. Et des oppositions, des abstentions, je vous remercie.
Acquisition d'un bien vacant et 100 mètres, parcelle cadastrée section E 1117. Monsieur Petit, s'il vous plaît.
Monsieur le maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens vacants et 100 mètres et notamment leurs modalités d'attribution à la commune. Il expose que la loi numéro 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a créé une troisième catégorie de biens vacants et 100 mètres, les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels depuis plus de 3 ans la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Dès le printemps 2015, la préfecture de Vaucluse aurait dû informer la commune de la présence éventuelle de ce type de biens sur le territoire de Bédouin. La commune, accompagnée par la SAFER PACA, a constaté que plusieurs comptes de propriétaires présentaient tous les critères définis par la loi numéro 2014-1170 du 13 octobre 2014. En effet, la question est de définir ce qu'est un propriétaire inconnu. La réponse est apportée par la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d'appellation de l'article de l'article 147 de la loi numéro 2007-809 du 13 août 2004. Il est précisé ce qu'est un propriétaire inconnu. La DGFiP considère qu'un propriétaire ayant disparu est un propriétaire inconnu. Les biens dont la propriété est inconnue. Les biens dont le propriétaire a disparu. Il s'agit des biens immobiliers qui appartenaient à une personne identifiée, disparue sans laisser de représentant, bien ayant appartenu à une personne connue, mais dont la date du décès n'a pu être déterminée à l'issue des recherches effectuées par la personne publique et qui ne sont pas devenus la propriété d'une autre personne, en particulier les immeubles pouvant être devenus la propriété d'une autre personne par l'effet de la prescription acquisitive. Dès lors, il est impossible de déterminer l'identité de l'actuel propriétaire de ces biens. Le compte de propriété, moine, sans prénom, Brémond Ferdinand Casimir, obéit scrupuleusement à cette définition. En effet, nous avons des personnes identifiées au cadastre, disparues sans laisser de représentants, des décès trentenaires impossibles à prouver, des biens qui ne sont pas devenus la propriété d'une autre personne. Considérant qu'il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens, considérant qu'aucun bien ne devrait être sans maître, en particulier au regard des obligations d'entretien qui sont de la responsabilité de tout propriétaire diligent, à partir d'une extraction des données cadastrales, le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître. Madame Moine, sans indication de prénom, née et connue à un lieu inconnu et dont le dernier domicile connu est 84 330 Saint-Pierre-de-Vassols. Et Monsieur Brémond Ferdinand Casimir, né à une date inconnue, en un lieu inconnu, et dont le dernier domicile connu est 84 340 Beaumont-du-Ventoux. La référence cadastrale E1117, lieu dit le Limon, pour une contenance de 3005 m² en nature de lande. Parallèlement, le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière d'Avignon n'a révélé aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété. Enfin, eu égard au revenu cadastral total de ce compte de propriété, 0,48 €, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'est pas mise en recouvrement. Il est donc vain de contacter la DGFiP à ce sujet. La commune précise également qu'elle n'a pu déterminer si un éventuel successible avait pris la qualité d'héritier de Madame Moine et M. Brémond Fernand Casimir. L'arrêté municipal numéro 2018-397 du 2 octobre 2018, reçu le 3 octobre 2018 en préfecture, reprenant toutes les mentions ci-dessus, a été affiché en mairie durant un délai de 6 mois. Il a été également notifié en lettre recommandée accusée de réception le 11 octobre 2018 à la dernière adresse connue des propriétaires, mais retourné à l'expédition avec la mention destinataire inconnue à l'adresse. Considérant qu'aucun ayant droit ne s'est manifesté, ce bien immobilier revient à la commune de Bédouin à titre gratuit. Monsieur le maire rappelle que la procédure d'acquisition par une commune d'un bien présumé sans maître n'interdit pas au véritable propriétaire de revendiquer la propriété de son immeuble afin d'en obtenir sa restitution. Néanmoins, la restitution sera subordonnée au paiement par les propriétaires ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagé par la commune. Par exception, l'ancien propriétaire ne pourra plus exiger la restitution de son bien si celui-ci a été vendu ou bien aménagé, notamment à des fins d'intérêt général. Il bénéficiera alors d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2241.1, vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L1123-1-3 et L1123-4, vu le Code civil et notamment l'article 1369, vu l'arrêté municipal numéro 2018-397 du 2 octobre 2018 reçu le 3 octobre 2018 en préfecture, il est demandé au Conseil municipal d'exercer ses droits en application des dispositions des articles L1123-1-3 et de L1123-4 du CGPPP et d'autoriser M. le maire à signer tout acte relatif à l'incorporation de ce bien vacant et sans maître.
Très bien, merci. Donc, on est toujours dans la procédure que nous avions engagée. On avait d'ailleurs été les premiers en Vaucluse de récupération des terrains, des biens vacants et sans maître. Une nouvelle fois, donc une recherche a permis justement de ne pas trouver un propriétaire pour un terrain qui était vacant. Des questions particulières ? Non, je soumets donc aux voix des oppositions. Des abstentions, Merci pour cette unanimité. Cession de la parcelle cadastrée, section E, numéro 403. Monsieur Petit, s'il vous plaît.
Monsieur le maire expose aux conseillers municipaux que la commune de Bédouin est propriétaire d'une parcelle de 3125 m² cadastrée section E, numéro 403, quartier Labroute. Ce terrain est entré dans le patrimoine privé communal au titre des biens vacants et sans maître en décembre 2016. La valeur vénale de la parcelle a été estimée par la SAFER à 1160 euros, soit 0,20 euros le mètre carré. Vu l'arrêté domanial du 2 août 2019, évaluant la valeur vénale de la parcelle à 0,60 euros le mètre carré, soit 1 875 euros, considérant que la proposition d'achat par M. Barnabé Horse en date du 15 juillet 2019 pour un montant de 1 562 euros, soit 0,50 euros le mètre carré, frais de vente à la charge de ce dernier, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, il est demandé au conseil municipal d'autoriser la cession de la parcelle section E 403 au prix de 1 562 euros à M. Barnabé Horse, de donner pouvoir à M. le maire ou à son adjoint délégué à l'urbanisme en vue de la signature de l'acte notarié de toute pièce afférente, et de dire que les crédits seront prévus à l'article 775 et au chapitre 024 du budget principal 2019.
Très bien. Si, pardon, des questions.
Oui, une remarque. En fait, sur cette cession, on voit qu'on a un avis du domaine à 0,60. On fait une cession à 0,50. Et très souvent, on achète du terrain qui est estimé à 1,40 €. On l'achète à 5 euros le mètre carré. Donc, ça fait un rapport de 1 à 10. Pour ces raisons... Alors, à la limite, ce n'est pas tellement sur la vente. Là encore, on n'est pas au prix du domaine. Mais je trouve assez curieux que quand on cède à bas prix, et quand on achète avec un prix élevé. Voilà, c'était une remarque que je tenais à faire.
Très bien, merci. Dans les deux chiffres que vous venez de donner, il y a un troisième qui est intéressant aussi. C'est la valeur vénale de la parcelle a été estimée par la SAFER à 0,20 euros du mètre carré. Donc on est au-dessous de ce que l'on a vendu, donc pour un terrain que l'on a eu pour rien. Oui, oui, mais là, avouez quand même la difficulté de trouver une juste mesure dans le prix. Pardon.
Est-ce que pour cela, il y a quatre parcelles dans ce cas-là, c'est ça?
Oui. Oui, il y a plusieurs.
Est-ce qu'il y avait plusieurs candidats certaines fois là, pour ces parcelles?
Non, il n'y avait pas de candidats,
celle-là,
plusieurs
non.
Candidats.
C'est le là, donc une autre, oui, il y en avait deux. C'est une parcelle de... Oui, il viendra après.
Non, mais c'est pour savoir comment a été décidé...
Après, l'achat des parcelles, notamment, puisque celle-ci est répertoriée en bois, ce sont les riverains qui sont prioritaires avant tout autre acheteur. Toi, tu le sais, mais peut-être que... Voilà, donc le propriétaire, M. Horse, étant... À côté de la. Il touche la propriété.
Au sujet de la valeur des biens, quand même, enfin, la mairie reçoit les avis SAFER depuis 10 ou 11 ans.
Elle ne peut plus les recevoir.
Oui, non, mais bon. Des terrains à moins de 1 euro le mètre carré, moi je n'ai pas vu. Moi je suis correspondant de SAFER en tant que syndicat agricole, des terrains à moins de 1 euro le mètre carré, je n'ai jamais vu passer. Hein. Non, mais bon. C'est une remarque, c'est tout. Voilà, tout simplement. Alors, sur la commune de Bédouin, des terrains à moins de 1 euro le mètre carré,
ouais.
Il n'y a pas de transaction qui
sont. Oui, justement, en tant que correspondance à faire, dites-leur que quand ils estiment à 20 centimes d'euros, ils sont peut-être un peu à côté de la plaque aussi.
C'est pour ça que l'estimation de la SAFER à 20 centimes...
C'est dérisoire, on est bien d'accord.
Non, mais je veux dire, vous le mettez dans la délibération...
Ouais, ben, on est obligé puisqu'on l'a incorporé dans les biens de la... Attends, je finis. On l'a incorporé dans les biens de la mairie à la valeur de 0,20 € le mètre carré. Donc on est obligé de dire à quel prix on l'a intégré dans les biens de la commune et à quel prix il a été évalué par les domaines, sachant que les domaines ne font aucune... ils ne temporisent pas sur ce qu'il y a dessus. C'est-à-dire que tu es un verger... une vigne ou un bois, tu le verras, c'est pour toute la délibération, le prix a été fixé sur Bédouin à 0,60 €. Alors que la SAFER donne un prix différent selon qu'elle est cultivée ou pas, ça tu le sais aussi.
Non, mais ça, la SAFER est bien mieux au courant des prix des terres agricoles que les domaines. C'est pour ça que de voir 20 donc, centimes le mètre carré, ça m'étonne beaucoup.
C'était leur avis officiel. Moi, après, j'ai pas...
Bien, je le mets aux voix. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie pour cette unanimité.
Parcelle suivante.
Alors, cession de la parcelle cadastrée section C numéro 1154. Monsieur le maire expose aux conseillers municipaux que la commune de Bédouin est propriétaire d'une parcelle de 6 960 m² cadastrée section C 1154, quartier Les Crottes. Ce terrain, Lande, est entré dans le patrimoine privé communal au titre des biens vacants 100 mètres en décembre 2016. La valeur vénale de la parcelle a été estimée à 0,50 € le mètre carré par la SAFER. Vu l'avis domanial du 2 août 2019 évaluant la valeur vénale de la parcelle à 0,60 €, soit 44 175 €, considérant la proposition d'achat faite par M. Jean-Marie Fabre en date du 1er juillet 2019 pour un montant de 3 480 €, soit 0,50 € le mètre, frais de vente à charge de ce dernier. Considérant qu'une servitude de passage sera accordée à M. Simon Triboulet pour l'accès à la borne du canal de Carpentras et pour la canalisation existante, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, il est demandé au conseil municipal d'autoriser la cession de la parcelle section C 1154 au prix de 3 480 € à M. Jean-Marie Fabre, de donner pouvoir à M. le maire ou à son adjoint délégué à l'urbanisme en vue de la signature de l'acte notarié et des pièces afférentes, et de dire que les crédits seront prévus à l'article 775 et au chapitre 024 du budget principal.
Bien, merci. Donc là, vous avez vu, par exemple, qu'on a essayé de rendre service à deux personnes. Justement, on avait deux candidats. Pour l'un, c'était immédiatement contre sa maison, et pour l'autre, c'était pour un passage de canalisation. Ça me parlait du fait que c'était une parcelle qui est quasi verticale pour la moitié de sa superficie. Donc, voilà, c'est aussi... Bon, des questions particulières, donc je le soumets aux voix. Des oppositions, des abstentions. Merci pour cette unanimité.
Cession des parcelles cadastrées section C, numéro 254, 259, 260 et 788. Monsieur le maire expose aux conseillers municipaux que la commune de Bédouin est propriétaire de plusieurs parcelles, cise Les Bruns, cadastrées section C, numéro 254 pour 1 240 m², C numéro 259 pour 430 m², C numéro 260, 520 m², en nature de verger non entretenu, quartier des Hauts-Pâtis, une autre parcelle, quartier des Hauts-Pâtis, cadastrée section C, 788 pour de 8 700 m², qui sont en bois. Ces terrains d'une surface totale de 10 890 m² sont entrés dans le patrimoine privé communal au titre des biens vacants 100 mètres en avril 2018. La valeur vénale de l'ensemble parcellaire a été établie à 0,53 € le mètre carré, soit 8 900 € pour la surface initiale totale de 16 710 m². Vu l'avis domanial du 2 août 2019, évaluant la valeur vénale de la parcelle à 0,60 € le mètre, soit 6 535 €, considérant la proposition d'achat faite par M. Laurent Mauny en date du 5 septembre 2019 pour un montant total de 6 540 €, soit 1 € le mètre pour les trois parcelles au brun et 0,50 le mètre carré pour le terrain des Hauts-Pâtis, frais de vente à charge de ce dernier. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, il est demandé au conseil municipal d'autoriser la cession des parcelles section C 254, 259, 260 et 788 au prix de 6 540 € à M. Laurent Mauny, de donner pouvoir à M. le maire, à son adjoint délégué à l'urbanisme en vue de la signature de l'acte notarié et de toute pièce afférente, et de dire que les crédits seront prévus à l'article 775 et au chapitre 024 du budget principal.
Très bien, merci. Donc là, c'est une cession à un agriculteur. Y a-t-il des remarques particulières ? Je le soumets donc aux voix. Des oppositions.
Pardon. Juste une remarque. Est-ce que la commune a quand même regardé si à moyen ou à long terme, ces terrains n'auraient pas pu être utiles pour autre chose, hein, par rapport à proximité des Bruns. Enfin bon, c'est dans ce coin-là. Ou même voilà, pour installer un agriculteur, pour avoir des terrains de ce type-là. Je sais qu'il y a du verger derrière. Bon, c'est déjà un agriculteur qui reprend.
Donc, ouais, oui. Donc il est certain que pour des parcelles dont nous ne souhaitons pas les mettre à disposition pour justement pouvoir prévoir éventuellement des échanges. On en a fait d'ailleurs quand on sait, parce qu'on n'a pas tout acheté, quartier des Prés de la Maille, on a fait parfois des transferts et des cessions. Et là, bon, on est sur des terrains qui sont quand même assez particuliers. Et effectivement, l'avantage que vous soulignez, c'est qu'en bandant un agriculteur, on est sûr que ça va perdre l'installation d'une caravane et d'une terrasse et d'une tonnelle et de tout ce qui peut suivre derrière. Ouais.
On ne peut pas trop là, mais tu veux dire, voilà, une commune peut avoir aussi des terrains comme ça pour favoriser l'installation de jeunes agriculteurs ou autres, notamment sur ces terrains-là qui sont des vergers. Il y en a d'autres où c'est des landes ou des choses comme ça, ouais. C'est pas intéressant, mais il y en a qui peuvent être intéressants, donc il faut le regarder.
Alors oui, tu as tout à fait raison, mais c'est vrai que bon, Laurent, là, en l'occurrence, est agriculteur et c'est des terrains qui l'intéressaient. Après, vous savez qu'on a rentré un nombre conséquent de biens vacants et sans maître, et effectivement, ceux qui sont proches du cœur du village ou dans des endroits, c'est-à-dire proches par exemple du terrain de sport ou voilà, stratégique, évidemment, à ce jour, on ne souhaite pas les vendre. Hein, c'est clair qu'on ne sait pas ce que l'avenir sera demain. Par contre, des morceaux qui sont, j'allais dire, plus écartés et en zone agricole ou naturelle, connaissant le PLU actuel, et je ne pense pas que ça évolue dans une ouverture effrénée de ces zones-là. C'est vrai que c'est bien que ça retourne aussi à des gens qui vont les entretenir et puis les valoriser. Voilà.
Oui, on a acquis par exemple une parcelle juste après les héritiers, en face le jardin collectif là, que certains d'entre vous cultivent et qui va nous servir, ce sera très précieux quand on va faire l'adduction de l'assainissement depuis les Vendrans. Ça nous permettra d'installer nos pompes de reprise puisque c'est un des terrains les plus bas, de manière à pouvoir récupérer le tuyau qui se trouve sur la route qui mène au Beau. Donc à des moments donnés, voilà, il faut être effectivement essayer de trouver la meilleure stratégie pour ces terrains-là. Je le mets aux voix, des oppositions, des abstentions. Merci pour cette unanimité.
Dernière session de parcelle pour aujourd'hui, la section D, numéro 291. Monsieur le maire expose aux conseillers municipaux que la commune de Bédouin est propriétaire d'une parcelle cadastrée section D, numéro 291, 6, lieu dit Le Bon Dieu, pour 1680 m². Ce terrain en nature réelle de bois taillé est entré dans le patrimoine privé communal au titre des biens vacants sans maître en avril 2018. La valeur de la vénale de l'ensemble parcellaire a été établie par la SAFER à 335 €, soit 0,20 € le mètre, et la vie domaniale du 2 août 2019, évaluant la valeur vénale de la parcelle à 0,60 €, soit 1 010 €. Considérant la proposition d'achat faite par M. Michel Coulon en date du 20 juin 2019 pour un montant total de 840 €, soit 0,50 € le mètre, frais de vente à charge de ces derniers. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, il est demandé au conseil municipal d'autoriser la cession de la parcelle cadastrée section D numéro 291 au prix de 840 € à M. Michel Coulon, de donner pouvoir à M. le maire ou à son adjoint délégué à l'urbanisme en vue de la signature de l'acte notarié de toutes les pièces afférentes et de dire que les crédits seront prévus à l'article 775 au chapitre 24 du budget principal 2019.
Très bien. Question particulière. Je soumets à vos suffrages des oppositions, des abstentions. Merci pour cette unanimité. Cocadis, transfert du bail d'un chalet cadastré, section AB, numéro 14. Béatrice, s'il te plaît.
Par courrier du 1er août 2019, maître Henri Passebois, notaire à Carpentras, sollicite l'autorisation de la commune en vue de la cession par messieurs Paul, David et Rémi Ferlat, au profit de M. et Mme Denis Bréchet, du chalet dont ils sont propriétaires, situé au 700 chemin Cocadis Nord, cadastré section AB numéro 14, pour une contenance cadastrale de 43 m². À cette cession vient s'ajouter le transfert du droit au bail qui a commencé à courir le 1er octobre 1978, pour se terminer le 1er octobre 2050. Monsieur le maire précise que l'acquéreur s'engage à respecter les termes du règlement du lotissement et du contrat de bail, et que la surface fera l'objet d'un nouveau mesurage. Vu le règlement du lotissement, vu la concession portant bail emphytéotique consentie par la commune au terme d'un acte initial reçu par maître Reynard, notaire à Bédouin, le 13 janvier et le 30 septembre 1981, Il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable au projet de vente du chalet installé sur le terrain communal du Cocadis, d'autoriser le notaire en charge du dossier à poursuivre cette vente pour le droit au bail restant à courir, de donner pouvoir à monsieur le maire ou tout adjoint faisant fonction pour signer tous les actes à cet effet.
Très bien, merci. Procédure habituelle pour un transfert de chalet au Cocadis, le chalet de monsieur Ferla, pour ceux qui le connaissaient.
L'acquéreur, c'est mon cousin. Je vous l'apprends. Hein. Est-ce que je participe au... Bon, ça n'a pas une grosse importance.
Comme vous... Je ne participe pas. Bon. Bien. Des oppositions, des abstentions, donc unanimité, moins la voix de monsieur Bernard qui ne participe pas au vote. Merci. Syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux, rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif. Madame Roux, s'il vous plaît.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la collectivité en charge des services publics d'eau potable et d'assainissement doit établir et présenter un rapport sur le prix et la qualité de ses services dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice concerné. Article L2224-5 du CGCT. La gestion de ces deux services a été déléguée à la SDEI Suez sous la forme d'un contrat d'affermage jusqu'en mai 2021 pour l'assainissement collectif et mai 2025 pour l'eau potable. Premièrement, le service d'assainissement. Les chiffres clés de l'assainissement sont les suivants. 78 048 habitants desservis. 9 579 pour Bédouin, moyenne de 4 personnes par habitation secondaire, 26 307 usagers, 1638 pour Bédouin et 1616 en 2017. 460,5 km de réseau, 37,558 km linéaires pour la commune, 2 859 020 m3 facturés, dont pour Bédouin, 174 139 m3. 4 816 954 m3 traités, dont pour la commune, 212 890 m3. 31 stations d'épuration, 11 sous autosurveillance, dont Bédouin. 118 postes de relèvement, 73 autorisations de déversement. Les tarifs de l'assainissement collectif sont les suivants. Je ne vous lis pas tout le tableau. Si ça ne vous ennuie pas. Donc, des opérations ont été réalisées à hauteur de 4 194 740,04 euros TTC. À Bédouin, des travaux d'extension de réseau ont été mandatés à hauteur de 736 296,63 euros TTC concernant le quartier des Bélonies, les Bruns et Saint-Estève. Deuxièmement, le service de production et de distribution d'eau potable. Les chiffres clés de l'année 2018 sont les suivants. 35 communes adhérentes, 183 528 habitants desservis, dont pour Bédouin 9 579, 73 854 usagers, dont pour Bédouin 2185, 1 649,68 km de réseau, 13 808 536 m3 prélevés, 236 branchements en plomb remplacés. Et là, il me manque un chiffre. 0,3 ou 1 Non, c'est pas un 1, c'est courbe. Là. C'est 100 millions, hein, ça doit être 1 393 402 m3 facturés, dont pour la commune 273 841. Et au total, 9 715 934 m3 consommés. Donc le premier chiffre que je vous ai donné, ça doit être 9 393 402 m3 facturés.
Au total.
Non, 10. 10, bon.
10, j'ai 9.
Les tarifs de l'eau identiques pour l'ensemble des communes adhérentes sont les suivants. Donc vous avez tous les détails sur un tableau. Le montant des opérations payées au cours de l'exercice s'est élevé à 8 401 970,87 euros TTC. À Bédouin, des travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable ont été réalisés au hameau des Bruns et à Saint-Estève pour un montant de 183 734,10 euros. Troisième point, le service de l'assainissement non collectif. 1150 contrôles ont été opérés en 2018. concernant la conception, la réalisation, le fonctionnement et le diagnostic, dont 30 pour la commune de Bédouin. 225 avis sur les demandes d'urbanisme, dont 4 concernant Bédouin. Les tarifs restent inchangés depuis 2011. Des redevances majorées, correspondant à des sanctions, ont été adoptées en juin 2015. L'année 2018 totalise 1216 factures pour un montant de 116 336,45 euros hors taxes, soit une progression de 7% par rapport à 2017. Pour 2018, il ressort un résultat d'exploitation positif de 10 116,90 euros et un excédent d'investissement de 25 032,04 euros. Après report du résultat antérieur déficitaire et des restes à réaliser, le résultat global présente un déficit de 50 976,73 euros. Vu les rapports annuels 2018 établis par le syndicat Rhône-Ventoux, vu les rapports annuels 2018 présentés par le délégataire, il est demandé au conseil municipal d'approuver les rapports annuels portant sur la qualité et le prix des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif et non collectif pour l'année 2018.
Très bien. Merci pour ce grand moment de bravoure. Donc le chiffre est effectivement 9 393 402 mètres cubes facturés, mais vous auriez rectifié de vous-même. Et simplement, ce dont je vous informe, c'est que dorénavant, nous devons contribuer à hauteur de 20% pour tout ce qui est les équipements, que ce soit l'eau ou l'assainissement. Et c'est aussi une pratique donc relativement récente de la part du syndicat forestier pour les débroussaillements. Et donc là aussi, c'est notre marge de manœuvre qui se réduit, puisqu'on finance 20% des travaux, ce qui n'était pas le cas précédemment. Bien. Y a-t-il des remarques particulières ?
Oui. Ah, pardon. Oh, c'est pareil. Excusez-moi. Donc, déjà, sur les 273 841 m3 d'eau potable, est-ce qu'on connaît ou est-ce qu'on peut savoir la part de la piscine et du camping, déjà? Et ensuite, je trouve assez surprenant, alors peut-être qu'il y a une explication et j'aimerais la connaître, c'est entre l'eau potable et l'assainissement, pour moi, on devrait avoir une égalité pratiquement parfaite. Et en gros, on a 60 000 mètres cubes d'écart, alors je ne sais pas trop. Ça, c'est le premier point. Mais dans le nom collectif, on n'en a pas.
Le syndicat gère deux entités, oui. L'eau et l'assainissement, sachant qu'il n'y a pas le même nombre d'adhérents sur le service de l'eau et sur le service d'assainissement. C'est-à-dire, il y a des communes, d'accord, qui sont en eau potable communale et qui sont adhérents, par contre, à l'assainissement, qui n'ont pas un assainissement communal.
Oui, mais nous concernant... Donc,
non, mais ça, c'est les résultats de l'ensemble du syndicat. C'est non. Pas notre. C'est le rapport de tout ce qui a été fait sur le syndicat en général, le périmètre. Nous, il y a simplement, pour la commune de Bédouin, on a simplement comme précision les travaux qui ont été faits chez nous. Pour le reste, c'est les résultats globaux, c'est-à-dire il a été consommé, je sais plus, 9 millions et quelques, mais c'est pas que sur la commune de Bédouin.
Hein. Oui, bien entendu. Moi, quand je lis 273 841 mètres cubes pour la commune,
oui, ça, oui.
Je dis que oui. C'est les mètres cubes pour la commune.
Oui, ça, oui.
Quand je dis sur l'assainissement 212 890 mètres cubes pour la commune, c'est pour la commune.
Sachant aussi que normalement, quand tu mets de l'eau potable dans ta piscine, tu ne dois pas la reverser dans l'assainissement.
Oui, ça, d'accord.
Donc, il y a toute une partie, effectivement, d'eau qui n'est pas...
Ma question, c'est pas ça. C'est que normalement, l'assainissement, en fait, si tu consommes un mètre cube d'eau, que tu la boives, que tu arroses tes plantes, que tu le mettes dans la piscine, tu payes un mètre cube d'assainissement.
Non. Alors,
non.
Non, mais tu le payes. Ça dépend si tu... En facturation, oui, mais pour ceux qui bénéficient du tout à l'égout. Nous, dans nos campagnes, on a tous des systèmes d'assainissement individuel. L'eau, on la paye à la sortie du compteur.
D'accord.
Mais on ne nous la facture pas.
Alors, en fait, là où je...
C'est le nom collectif.
Là où je me trompe, c'est qu'effectivement, d'accord, quand je comptais pour la commune, je croyais pour la collectivité. Effectivement, c'est pour l'ensemble de la commune. Autant pour moi.
Et oui.
Ensuite, moi, il y a un point qui me... J'ai regardé un petit peu le rapport annuel sur l'eau potable. Sur la commune de Bédouin, il y a eu 17 fuites de détectées. Et globalement, on a passé un été, vous vous êtes rendu compte fréquemment, notamment sur le haut de Bédouin, où on avait
On a eu de nombreuses fuites. Alors, bien entendu, la commune n'est pour rien. Mais je pense que demain, il va falloir que le syndicat, avec, je dirais, le prestataire, peut-être Suez, se penche sérieusement sur ces problèmes, parce que l'eau, c'est un bien précieux, tout le monde le sait. Et très certainement que l'état des conduites sur Bédouin, alors je sais qu'on souffre d'une surfréquentation, mais il serait temps de mettre un peu à niveau nos installations. Quoi. Voilà.
Oui, il y a, des plans, comment appelle-t-on, la programmation, un schéma directeur. Merci, schéma Patrick. Directeur.
Alors, okay. Moi, mes remarques elles portent un peu plus là-dessus, c'est la même question, c'est-à-dire sur l'eau, hein, sur l'eau potable. Il y a 2185 usagers à Bédouin, bon, une petite augmentation de 2%, ça note bien qu'on est sur une quand même stabilisation de notre population. Par contre, sur l'eau facturée, les 273 000 que tu disais, on est en baisse de 8% par rapport aux évolutions en 2017. Donc, ça facture moins d'eau. Donc, peut-être que c'est aussi une économie faite par les usagers, hein, de dire, voilà, attention, parce que ça coûte cher et qu'on essaye aussi de préserver. Ça, c'est intéressant. Sur la question des fuites, tu l'as soulevé, 17 à Bédouin, quand même 15 au Pontet, 17 à Pernes, je veux dire, 17 à Sorgues. On est sur une commune quand même relativement petite et on a quand même beaucoup de fuites. Quoi. Donc il faudrait, par rapport à d'autres communes, il y a 20, si on compte, se regarde 25 détectés sur Carpentras. Donc il faudrait peut-être faire des efforts sur cette question-là. Pour finir sur l'eau, la qualité, si on regarde, bilan général sur la qualité de l'eau, bon, il est dit qu'elle est conforme au sens de la potabilité, mais quand même, il y a un dépassement mesuré sur le DEDIA. DEDIA, c'est les dérives pesticides, en production sur la station de Basse-Pessade à Bédouin. C'est une problématique connue qui fait l'objet d'un suivi. Et après, on n'a rien, mise en place d'un périmètre de protection pour le contrôle de la... Mais rien n'est fait, je dirais, pour essayer d'améliorer cette problématique qu'on a sur ce captage-là. Tu l'avais déjà dit l'autre fois, on en avait parlé, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait peut-être que le syndicat regarde de près, quoi, et qu'on lui indique. Et après, je finis sur l'eau. La question sur les investissements, ça représente à peine Bédouin, hein, 2% du total des 8 411 000 sur l'eau. Il y a peut-être des questions à se dire, il y a des fuites, il y a cette fuite, mais pourquoi on ne fait pas plus de travaux que ça
Par rapport aux travaux, on a des périodes de facturation. Par contre, un des points qui peut expliquer qu'on ait beaucoup de fuites, c'est que vous savez que Bédouin, ça n'est encore aperçu, justement ça répond un peu à une question qu'a posée Alain, dont on parlera tout à l'heure, pour la réception des réseaux. Des réseaux, donc notamment du lotissement Saint-Marcelin, c'est qu'à Bédouin, on a des endroits, on a des pressions de 20 kg. Et c'est assez, et même ça dépasse 20 kg, c'est énorme. La pression domestique, c'est au maxi 3, et en général, c'est à 1,5. Ce qui explique que de temps en temps, on est ces fuites, et ça a été un peu ce que signalait Alain, d'autant qu'on a eu en plus d'autres problèmes, c'est que c'est le réservoir de Piravon qui alimente majoritairement la totalité, qui est lui-même alimenté par un prélèvement sur le forage Giardini, c'est-à-dire derrière le garage d'Elbar, route de Carpentras. Oui, mais ce qui s'est passé aussi, c'est que donc on a une télécommande qui est alimentée par un panneau photovoltaïque. On s'est fait faucher deux fois le panneau photovoltaïque de cette année, ce qui explique que le réservoir s'est vidé et que quand on refait les plaines ou autre, on prend des coups de bélier, et c'est ce qui a généré au moins une fois les deux ou trois fuites qu'on a eues près du monument aux morts. Donc c'est un système très, très complexe, et bon, il faut essayer de l'améliorer, on est bien d'accord.
Techniquement, sur la problématique des pressions, effectivement, si on ne met pas de surpresseur en ligne, on est obligé de gonfler en bas pour arriver tout en haut. Mais il existe des solutions techniques. Il faut à un certain moment peut-être que le syndicat, il faudra que le syndicat s'y penche dessus, parce que de gonfler à plus de 10 bars pour arriver à 1 bar à certains endroits, c'est pas la solution, c'est pas une solution durable quoi, et pérenne.
Sur l'assainissement collectif, hein, parce qu'après j'ai pas eu le temps d'étudier l'autre point, la station, elle est marquée 7500 équivalents habitants. Elle est à 7500 ou elle est à 9000? Moi je sais plus. On a dit souvent, on est à 9000 équivalents habitants sur la station de Bédouin. Et là, il est noté 7500.
Lors de,
lors de la réalisation du PLU dans les pièces annexes, on avait eu effectivement le courrier du syndicat qui me faisait état, puisque ça avait été demandé. Mais je t'avoue que... Non, mais... Joker.
Pour savoir, est-ce qu'on est à 9000 ou 7500 équivalents habitants. Si on est à 7500 équivalents habitants, sur la saison touristique, on est loin du compte. Je veux dire que la station, elle est à saturation.
Donc, alors, on fait quoi?
Je ne sais pas. On étudie la question.
On met une barrière au pont de Crio.
Je ne sais pas. Voilà, il y a des stations qui se sont faites ailleurs. Une autre remarque sur les...
Oui, alors attends, Patrick. Ne pas oublier non plus que tout le monde n'est pas accordé sur la station quand même. Voilà. Oui, heureusement. Là, tous ceux qui sont dans la campagne ont leur système individuel, le SPANC. Alors, peut-être que l'un compense sur l'autre.
Il y a 1600 usagers qui sont raccordés à la station, alors qu'il y a 2000 et quelques par rapport à l'eau. Juste une remarque entre le volume traité et le volume facturé. Volume traité 221 000 mètres cubes, volume facturé 174 000. Donc on a 47, en gros, j'arrondis 50 000 mètres cubes, d'eau parasite, d'eau claire, qui sont liées à des réseaux non étanches, qui sont à des eaux de pluie qui vont sur la station, et donc la station traite 50 000 mètres cubes d'eau qui sont non facturés quelque part. Voilà. Donc ça rajoute à ce que je disais sur la capacité de notre station peut-être à traiter aussi. Problématique de ces eaux, tu les connais.
Oui. Et attends, je réfléchis à ce que tu dis. Il y avait quelque chose qui... Ça explique aussi que le syndicat fasse de temps en temps des fumigations pour essayer de trouver donc si les personnes se sont accordées directement à l'égout. Et semble-t-il que quand ça arrive par la bande de la salle de bain et que c'est tout rose dans la... Dans la dite salle de bain, en général, on rectifie vite les choses. Quoi. Et par contre, il y a un autre point sur lequel on travaille, donc on s'est inscrit, mais qui est un petit peu compliqué, mais là, c'est dans le domaine de la consommation, c'est qu'on a un certain nombre de bornes agricoles que l'on voudrait brancher sur le canal, puisque à une époque, c'était pas possible. C'est un peu gênant en ce sens où le canal est parfois ce qu'ils appellent au chômage, c'est-à-dire il n'y a plus d'eau pendant l'hiver, notamment au moment du printemps. Et d'autre part, on a à résoudre notre problème, c'est que ça nécessite des abonnements définitifs. Et compte tenu du fait aussi que les stations à la fois de remplissage, de lavage font l'objet maintenant d'une... d'un prototypage très strict, on risque d'être à terme obligé de faire comme il a été fait à Saint-Pierre, à Saint-Hippolyte et Caron, de ne faire plus qu'un point qui serve à la fois à tous ces usages, le tout étant après d'y trouver un emplacement qui satisfasse tout le monde, et aussi de trouver un syndicat ou un collectif d'agriculteurs qui gère cet outil qui leur appartient, plus que ça aussi, ça pourrait permettre une économie un peu substantielle. Et ça fait, on s'est inscrit dans la démarche, mais c'est ce qui est compliqué aussi, c'est de trouver le terrain.
Oui, il y a quand même eu une fuite au hameau des Chalons qui a duré 3 semaines. Béatrice, hein. J'ai fait à peu près le compte approximatif, il s'est écoulé 1000 mètres cubes. En gros, hein, plus ou moins 10%. Quoi. Donc c'est quand même regrettable et c'est une des raisons pour lesquelles nous ne voterons pas ce rapport. Parce que comme l'a dit Patrick, il n'y a pas assez d'investissement pour l'entretien des conduites. On facture, on prend l'argent et on n'entretient pas les conduites et on augmente le prix parce qu'on a des pertes et ainsi de suite. Donc, nous ne voterons pas ce rapport.
Oui. Bien. Donc, alors, on s'exprime. Alors, des oppositions sur ce rapport. Donc, M. Constant, M. Bernard, Mme Perrin, M. Campon, M. Rossetti, je suppose. Oui. Des abstentions. Très bien. Bon, approbation pour le reste. Merci. explication du tableau des effectifs. Vu le code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 83 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment les articles 3.1 et 3.2, ouvrant la possibilité de recruter des agents non titulaires de droit public en raison d'un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, considérant le besoin occasionnel au sein des équipements municipaux de la piscine, camping, piscine, tennis, où il exposait de M. le maire, il est demandé au conseil municipal d'approuver pour le budget annexe camping, piscine, tennis 2019 sur la base de l'alinéa 3.1, la création d'un poste d'adjoint technique non titulaire à temps complet, et de dire que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget annexe concerné. Nous expliquer, M. Petit. Sinon, je le sais.
Non, c'est pas mon...
C'est toi personnel.
Oui, donc, au niveau du camping et de la piscine, vous savez qu'on a un couple de gérants, enfin, on va dire, enfin, en raccourci, hein. Sachant que Mme Monnier est sur un contrat de 3 ans et que il s'appelle Brice Langlois est sur un contrat qui a plus court terme et que donc il a, en accord avec lui, il a été demandé d'aller pour l'instant jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, donc nous allons prévoir un contrat pour les 4 mois de l'année 2019. Et nous serons peut-être amenés à procéder à une à nouveau, dans un conseil municipal ultérieur de fin d'année, peut-être à une reconduction pour l'année 2020.
Bien, d'autres questions particulières là-dessus ?
Pas spécialement sur la délibération, mais sur le tableau des effectifs théoriques. Il y a l'ensemble des agents de la commune, c'est ça ?
Oui.
D'accord. À date, donc, il y a l'ensemble.
Sauf, oui.
C'est les gens qui sont en contrat, voilà. Par contre, si on a un remplacement, c'est-à-dire sur un congé maladie, ils ne rentrent pas sur l'effectif, ils ne viennent pas en surnombre. Hein, c'est les postes qui sont ouverts au budget. Donc ça veut dire que si tu as quelqu'un qui est malade et qu'on prend quelqu'un, il n'apparaît pas dans le tableau des effectifs, même s'il participe effectivement, il est employé sur la collectivité.
Et est-ce que c'est le cas à ce jour ou pas ? Est-ce qu'il y a des personnes dans ce cas de figure ?
Alors oui, alors de tête, Madame Gesselin va m'aider parce que à la comptabilité, donc Madame Chauvet, donc qui est sur les rompus, ce qu'on appelle les rompus de temps partiel, c'est-à-dire les gens qui sont pas à temps complet, qui travaillent à 80 ou 90%, on peut cumuler les pourcentages pour créer un poste de remplacement, c'est-à-dire que si tu as un moment où tu as 0,50, après tu peux faire comme tu veux sur ces quotités-là.
Et en fait, c'est sur, que je comprenne, c'est sur une personne ou c'est sur un cumul que vous pouvez le faire ?
Alors, sur les cumuls de temps partiel.
Ah, ok.
C'est-à-dire tu as 80% à la comptabilité, 90% sur le poste de l'urbanisme, je te dis des choses, voilà, et après tu peux avoir avec faire sur ces rompus, asseoir un remplaçant pour venir travailler sur la quotité qui n'est pas faite par les temps complets, puisqu'ils ne sont plus à temps complet.
D'accord. Ok.
Parce qu'en fait, les postes sont souvent créés à temps complet, et ce sont les agents qui demandent, et dans certains cas, c'est de droit, à diminuer leur temps de travail effectif. Et par contre, c'est un renouvellement qui doit se faire chaque année. Et c'est parfois difficile à prévoir. Hein, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, là où ça pose souci sur le plan budgétaire, c'est quand vous avez un agent qui est malade, puisque le salaire, donc, il est prévu initialement sur la masse salariale, mais néanmoins, on doit payer sur cette même enveloppe son remplaçant. Mais par contre, on perçoit le remboursement des indemnités journalières sur un autre chapitre. Ce qui fait que quand on compare les deux, effectivement, on a dépensé réellement que le salaire d'un agent, mais par contre, on a une inscription double.
si on est obligé d'embaucher quelqu'un en plus sur l'enveloppe salaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le 0,12, on peut saturer ce 0,12 et on peut, et je pense que c'est ce qu'on va être obligé de faire en cette fin d'année parce qu'on a des agents qui ont été sur des maladies longue durée, on va être obligé d'augmenter le 0,12 tout en sachant que par ailleurs on aura quand même la rentrée, le remboursement des indemnités journalières de l'agent qui viennent à la commune puisque la commune se subroge. C'est-à-dire c'est la commune qui paye, ce n'est pas à l'agent d'attendre que les caisses lui reversent ses salaires. C'est des gymnastiques un peu compliquées qui font que c'est un peu hasardeux et aléatoire aussi de comparer des charges salariales annuelles successives puisqu'on peut avoir des situations médicales qui te bouleversent tout à fait le panorama, quoi, qui ne correspondent pas à la réalité. Mais ça, c'est le soir, on est fatigué un peu. Ouais. Bien, donc j'ai fait voter ça, non? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité, pour ces recrutements. Donc, comme nous le faisons d'habitude, je vais répondre aux questions qui ont été déposées par les conseillers municipaux. Question de M. Campon, dans l'ordre d'arrivée. Donc, l'ensemble des élus a reçu fin mai un courrier de l'association Taxi Pantaille nous informant de la sortie prochaine de l'album de Tankélicien Vantalentour, en nous proposant de préparer avec la commune la sortie officielle de cet album sur Bédouin. L'association a-t-elle reçu une réponse de notre part? Peut-on prévoir une représentation sur Bédouin pour soutenir cette création musicale locale? Alors, il est vrai que nous avions versé de façon exceptionnelle une subvention de 800 euros pour la réalisation de cet album. Et j'avais d'ailleurs demandé fin mai, puisque normalement ça aurait dû être fait dans l'année précédente, j'avais demandé à Vincent, en charge des associations où nous en étions, donc nous avions eu un courrier, et donc le disque devait sortir à l'automne, mais Denis a eu l'information donc, que ce serait en novembre, c'est ça, sur le courrier. Oui, d'accord, par Vincent. Donc voilà, nous savons maintenant ce qu'il en est. Nous, pour ceux qui nous concernent, pas de problème, s'ils veulent le promouvoir, on mettra à disposition le centre culturel pour permettre la manifestation. Oui. C'est-à-dire à créer un conservatoire?
Je peux intervenir, s'il vous plaît? Non, simplement au niveau culturel, moi, je signale quand même que j'ai travaillé chaque année avec Taxi Pantaille. Deux fois même dans l'année, la commune a participé à plusieurs concerts. Soit au Moustier, soit au Centre Culturel, ou même à l'extérieur. Donc je les ai toujours fait travailler jusqu'à ce jour. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci avec eux. Moi, j'ai toujours travaillé avec eux. Plusieurs fois. Ben, si, tu demandes à ce qu'on...
De toute façon, Vincent, ils en reparleront avec Vincent, mais là, moi, je ne peux pas parler à leur place, ni quoi que ce soit. Mais ce qui est certain, c'est que nous faisons travailler les artistes locaux en les rémunérant, donc sachez-le. Et vous avez vu, d'ailleurs, lors de la fête du village, donc nous avons organisé une soirée spéciale talents locaux qui a eu beaucoup de succès. Voilà. D'accord. Bon, deuxième, et ça répond aussi à une question de Monsieur Constant. Au dernier conseil municipal de juillet, nous avons été informés de la demande du préfet de retirer la délibération du 13 mars concernant la modification numéro 2 du PLU et de prendre en compte un certain nombre de recommandations, notamment éventuellement environnementales postérieures à l'enquête publique, nécessité d'une révision plutôt que d'une modification. Quelle réponse la commune a-t-elle produit à cette demande? Quelle sera la suite donnée à la modification du PLU?
Eh bien, tout simplement, le 6 septembre, le préfet nous a déféré au tribunal. Donc, la démarche est en cours et on attend la suite. Question 3 sur les...
Non, je vais pas... Oui, je vais répondre. Enfin, je vais... en l'occurrence, le PLU que nous avons voté s'applique dans son entité jusqu'à la décision de la justice. Et après, selon la décision de la justice, celui qui sera débouté pourra ou non intervenir. Et je vous rappelle qu'on a vécu cette situation avec le PLU antérieur, avec lequel nous avons travaillé, jusqu'au moment de la première révision où la Cour d'appel de Marseille nous a débouté sur certains points, et donc il a fallu qu'on les intègre. Donc pour l'instant, le PLU que nous avons voté en mars s'applique dans son intégralité tel qu'il est exécutoire, jusqu'à décision de la justice. Voilà.
Dans les documents de l'enquête publique sur le SCOT, on trouve un courrier de la commune de Bédouin qui donne un avis favorable sur le schéma, alors que d'autres communes ont pris le soin de présenter, de débattre du SCOT en conseil avant de prendre une délibération. Pourquoi cette décision à la commune n'a pas fait l'objet d'une délibération sur la question? Parce que la saisine par rapport au SCOT, ça concerne le maire de la commune et ça ne concerne pas le conseil municipal. De la même manière, quand vous demandez l'avis des personnes publiques associées pour un PLU ou un SCOT, c'est adressé au président et ce n'est pas l'Assemblée départementale qui délibère. Voilà, donc ça a été fait dans ce sens. Par contre, sachez que nous sommes, je crois, depuis le 4 de ce mois, en enquête publique sur le SCOT, où nous-mêmes, communes, allons déposer une contribution par rapport à un problème de zonage sur le projet de zone artisanale que nous souhaitons mettre en place, route de Crillon.
Ça enregistre, c'est ça. Moi j'aurais aimé qu'on puisse en débattre parce qu'il y a des choses, tu vois. Tu nous dis, voilà, c'est pas inscrit sur la question d'une autre zone artisanale. On est d'accord, on l'a vu. Mais il y a plein d'autres choses dans ce SCOT qui sont pas intéressantes, qu'il faut revoir, qu'il faut reprendre. Donc l'idée c'était de dire qu'on puisse en discuter et qui concerne bien sûr la commune de Bédouin, mais pas que. Parce que le SCOT c'est bien un schéma d'aménagement lié à un territoire. Hein. Voilà, donc par exemple, l'UTN qu'il y a sur Malocène, c'est relativement à faire enlever. Enfin, à mon avis, sur ce SCOT-là, il y aura. Et sur Bédouin, il y a aussi d'autres questionnements de ce type-là. Mais on ne va pas débattre là. Je sais que ça appartient, c'est le maire qui peut décider. Donc moi, je trouve dommage qu'on n'ait pas eu ce débat-là au sein du conseil.
Qui peut décider, qui peut contribuer. Et je vous dis, la contribution, elle est la même. Hein. Le maire en lui-même ne dit pas le SCOT doit faire, et surtout pas au niveau du SCOT. C'est vraiment le pire des documents qui ait jamais existé, puisque c'est extrêmement contraignant. Il y a les contributions, par exemple pour des extensions de zones au moment de la consommation des terrains agricoles, ça fait l'objet de débats énormes. Quand je disais tout à l'heure que j'étais à la CDCA pour représenter les communes forestières, on n'arrive même pas à se faire entendre pour des installations d'agriculteurs, n'est-ce pas, monsieur le représentant syndical agricole. Donc on a des... Ouais, c'est... voilà. Au-delà des bonnes intentions, on est parfois battu en brèche par la lourdeur du système.
C'est pas facile ce document, mais juste quand même, on remarque l'absence dans les documents de l'enquête publique de l'avis de la région. Je ne sais pas si vous avez vu les avis des différents partenaires là-dessus, des personnes publiques associées. C'est intéressant sur le SCOT. La région n'y est pas, alors que sur... elle porte le parc de manière très forte. Et là, curieusement, on ne retrouve pas son avis sur le SCOT. C'est particulier, je trouve. Voilà.
Président de nos régions. La quatrième question, la MSAP portée par la MJC doit se transformer en Maison France Service avec un cahier des charges qui évolue, plus de partenaires, plusieurs agents d'accueil,
Peut-on avoir des informations sur ce dossier? Quelle sera la suite donnée au projet porté par la MEJC? Alors, sur ce projet que je vous rappelle, donc, nous avons créé une maison de service au public qui se trouve donc au stade et qui regroupe à ce jour cinq prestataires intervenants qui sont Pôle emploi, la CAF, la MSA, la CARSAT et un autre. Voilà, très efficace. donc nous avons. Nous avons un intervenant qui est M. Philippe Rosé, donc qui est une personne qui est rémunérée par la Maison des Jeunes et de la Culture, mais qui, bien sûr, qui reçoit une partie de son financement de la part de la mairie. Donc jusqu'à maintenant, les choses se déroulaient assez bien. Là aussi, mais je fais remarquer que nous avons été très volontaristes et très actifs pour installer cette structure qui répond au départ des services publics des communes. Et vous savez que certaines communes voient même disparaître leurs postes. C'est le cas pour Aubignan, qui fait quand même 7 à 8 000 habitants. Bon, on ne décide de rien, on constate et surtout on essaie de pallier. Et donc ces maisons de services au public font l'objet d'un examen attentif de la part de l'État qui veut les promouvoir, bien entendu, qui veut aider en les appelant autrement, ça s'appellera donc des maisons France Service. Il va falloir qu'il y ait davantage de partenaires et nous aurons par exemple les finances publiques qui viendront, puisque vous savez là aussi qu'il y a eu un remaniement, que Carpentras ne traite plus que les entreprises, qu'il vous faut aller ou à Orange ou à Avignon suivant l'activité que vous exercez, enfin une raréfaction du service. Et donc ils ont envisagé par exemple de venir tenir des permanences dans les villages, dans les MSAP et d'autres partenaires de la même manière. Donc ça signifie qu'il va falloir des structures plus importantes pour les accueillir, plus de personnel, donc c'est-à-dire le double de personnel. Et bien sûr, l'État, mais je ne me fais guère d'illusions, ce sera surtout au début, va nous aider en apportant une contribution plus importante. Et à ce jour, par contre, étant donné que l'interlocuteur est la Maison des Jeunes et de la Culture, donc nous ne savons pas encore, parce qu'ils tiennent l'Assemblée Générale le 26, donc c'est dans quelques jours. Le Conseil d'administration, oui, pardon, c'est le Conseil qui décide. Oui, ils tiennent leur Conseil le 26. Et donc nous ne savons pas encore s'ils vont continuer, eux, à porter en recrutant, bien sûr, en trouvant une deuxième personne, puisqu'il y a il faut avoir deux intervenants de 25 heures par semaine, bon, minima, bien sûr, mais donc 50 heures d'intervention par semaine, donc ça fait deux personnes. Donc on ne sait pas encore quelle est leur intention, sachant de toute façon, et bon, on a quand même eu des approches assez sérieuses, que ben, la mairie sera toujours là. Et pour nous, c'est un engagement important. Nous le tiendrons et nous soutiendrons cette nouvelle création. Ensuite, bien, à voir comment les choses seront finalisées, quoi. Mais je n'ai rien de plus précis, puisque finalement, à ce jour, ça dépend d'eux. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on ait eu la bonne idée, à un moment donné, de la créer. Parce que, bien entendu, vous comprendrez que l'État ne va pas dépenser à tour de bras pour chaque village voisin les sommes conséquentes qu'il envisage de mettre. On est à 70 000, donc, combien on est ? Okay. Qu'est-ce que ce serait les sommes mises, des prises en charge de... Non, l'État 30 000, voilà, l'État serait à 30 000 de... Non, mais oui, mais ça signifie, oui, l'État 30 000, ce qui fait à peu près la moitié. Ouais, donc je ne suis pas complètement à côté du vélo. Ouais, oui, c'est ça. Bien, donc voilà pour vos questions. Monsieur Constant, vous aviez posé une question relative au PLU. Ça a été traité. Et il y en a une autre, le parking, effectivement. La mise en service du parking Saint-Marcelin, sous quel délai ce parking sera mis en service? Oui, parking devant le garage et la vanne. Donc, alors, le parking a fait l'objet pour pouvoir commencer à utiliser ce parking. La mairie doit en devenir propriétaire. Pour en être propriétaire, nous voulons être certains que tous les équipements, tous les réseaux en particulier, puisque nous avons l'eau, nous avons l'assainissement, nous avons le téléphone, nous avons l'électricité, Et on a encore, on va avoir effectivement un équipement de 2 bornes électriques pour recharger les véhicules, ainsi que des bornes pour recharger les vélos, puisqu'on a de plus en plus de vélos électriques, que tout ceci est conforme. Et on a fait une pré-réception le 20. Normalement, il y aura la réception définitive le 27. Néanmoins, c'est un chantier sur lequel on est en retard, on n'a pas été très satisfait. Mais enfin, il n'était pas question d'accepter de valider quelque chose qui n'était pas fini. Et vous savez comment ça se passe chez vous, donc vous le transposez au niveau communal. Donc, mais c'est une question de jour, puisqu'on apprend chaque jour par des mails que les documents arrivent, il faut repérer les réseaux, mais c'est compliqué, quoi.
C'est quand même dommage que ce parking était pratiquement fini, goudronné et tout, et que pendant toute la période estivale, on en aurait eu besoin et que les gens n'ont pas pu l'utiliser.
On l'aurait définitivement récupéré. Or, justement, ce qu'on ne voulait pas, c'est récupérer des travaux non terminés. Ça, c'est certain.
Je pense que tu as dû remarquer, sur la route de la montagne à droite, on a créé un parking pour pallier un peu cette défection. Mais bon, moi j'ai souvent visité ce parking avec M. Gilles Jouveau, qui au début émettait beaucoup de doutes, je ne comprenais pas pourquoi, mais aujourd'hui je comprends pourquoi. C'était catastrophique au niveau des réseaux, au niveau des plans, c'est une catastrophe. Donc on ne peut pas récupérer un parking comme ça. Parce que dans 5 ans, dans 6 ans, si on a besoin de faire un trou, et si on ne sait pas où se trouvent les canalisations, on va trop bon. Là, on sera propre. Là.
On s'était déjà aperçu que le bus ne pouvait pas sortir, il avait fallu casser le mur, et ainsi de suite.
Non, pas du tout. Ce qu'on a fait, le parking, il a été dessiné sur une feuille de papier, comme tous les plans. Et ensuite, on a fait venir le quart de ramassage scolaire pour voir un peu les sorties qu'il pouvait employer. Vous pouvez sortir. Donc on s'est rendu compte que le bus il ne pouvait pas tourner sur la droite directement parce qu'il y a une sortie le lundi, elle se fait dans la rue qui est en face, il fait le tour devant les écoles et remonte, mais il ne pouvait pas tourner à droite. Donc ce qu'on a demandé au bâtisseur, constructeur, si tu pouvais faire, c'est d'aménager un peu la sortie. Mais ça, c'est, on le voit que quand on a le bus dans les mains et qu'on fait des essais. Oui. Moi, j'étais persuadé qu'il sortait.
Non, simplement, techniquement, maintenant, on arrive à mettre en mouvement des pièces, on arrive à mettre en mouvement des bus, des voitures et tout. Alors, très certainement qu'ils n'avaient pas le logiciel, certes, mais il existe des solutions techniques. Ça, je ne suis pas persuadé.
Je ne dis pas qu'il n'existe pas de solutions techniques. Je le vis tous les jours. Là, bon, on ne travaille pas dans l'aéronautique quand même. Donc, avec ce que nous avions, on a préféré appliquer le réel pour pouvoir dire que... Non. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible, j'ai dit qu'il fallait le vérifier. Donc on l'a vérifié et on a encore une vérification à faire. S'il peut rentrer dans le parking lorsqu'on en le livrera, en position haute au niveau de la station essence, sans le rond-point. Parce que le rond-point, on l'aura un peu plus tard. Mais ça, il n'y a qu'avec le car, avec le bus, qu'on peut le voir. Quoi. Je ne pense pas qu'on refera le parking. Ne t'inquiète pas, on ne refera pas le parking. Mais bon.
C'est le département qui doit le refaire. Oui, nous allons commencer accessoirement, puisqu'on est sur ce quartier. Là, normalement, tout ce qui est enfouissement et entrée des maisons devrait être fait avant Noël. Je dis bien devrait être fait. Hein. Voilà, c'est ce qui a été annoncé. Et début de l'année, ce sera le rond-point giratoire, de manière à ce que tout soit opérationnel au printemps quand arriveront les premiers touristes. Et je vous répète quand même, je vous rappelle que le parking dont nous parlons, c'est un parking qui est exclusivement réservé aux touristes ou à vous-même, mais n'est aucunement le parking des logements qui possèdent eux-mêmes leur propre place de parking, dont certaines appartiennent à Grand Delta Habitat et certaines donc sont à la commune. Mesdames, Messieurs, il me reste à vous remercier pour votre patience. Vous souhaitez une bonne soirée. Au revoir. Ah, pardon. Mais Michel.
Moi, je vous...
je voudrais personnellement m'adresser à M. Bernard et à M. Constant. Voilà, tout à l'heure, au début, je n'ai pas voulu interrompre le conseil municipal. Je venais quand même pas vous remercier pour les mots et termes gentils dont vous nous avez affublés. Nous ne sommes quand même pas des moutons, je pense, contrairement à ce que vous pouvez penser. Par contre, ce que je peux dire, c'est que personnellement, M. le maire ne m'a jamais contrainte à voter contre ma volonté. C'est-à-dire, je vote en mon âme et conscience, d'accord ? Mes collègues, je pense que ça doit être la même chose. Après, je respecte vos points de vue. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense et de dire ce qu'il a à dire. Voilà. Pour le parc, par exemple, j'ai toujours été pour le parc dès le départ. Donc, mes idées n'ont pas changé parce que je pense que c'est un bien pour la protection du Ventoux. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.
On ne va pas refaire le débat. On va pas refaire le débat. Ton avis, je le respecte totalement. Ça ne me cause aucun souci. Moi, ce que j'ai déploré, c'est qu'on n'a jamais eu de discussion à ce sujet. Mais voilà.
Je n'ai jamais dit le contraire. C'est simplement la façon dont vous parlez envers nous. C'est
et
tout.
On ne s'est jamais permis
d'en dire autant.
C'est dommage de s'engager sur cette voie-là à la fin du conseil. Parce que peut-être que s'il y avait une discussion...
Moi, j'ai été personnellement assez peinée et choquée. Voilà. Oui, mais c'est bien dommage.